There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour, bonjour tout le monde, très contente de te retrouver, Kalindi, pour un nouvel épisode du Book Club.
Aussi,
très contente que vous soyez là. Il y a plein de gens qui jouent le jeu, hein, qui vraiment, ils ont lu le livre parce que c'est toi qui l'as recommandé pour être à l'heure. Ils ont chialé, on va en parler, merci beaucoup. Et du coup, je suis ravie que vous soyez de plus en plus nombreux et nombreuses sur ce rendez-vous qu'on kiffe. Kalindi,
ouais, c'est trop cool, merci beaucoup.
Tu peux rappeler
attends,
qui tu es aux gens qui ne te connaissent pas? Bon, tu peux leur dire à l'oral. Hein.
Ah ouais, c'est vrai.
Ah, ça va être un long moment de vie. Hein.
Non, en fait,
on a déjà fait des visios quand même, Cal.
Non, mais là, parce que là, je suis sur Discord. En fait, vas-y, je coupe Discord, ça sert plus à rien.
Ah oui, Discord, tu
mais
peux.
Là, il y a ça, il y a le chat sur une autre fenêtre, j'ai ma boîte mail en parallèle, enfin, je veux dire, tellement...
Après, ferme ta boîte mail, peut-être. Perso, j'ai coupé WhatsApp, tu vois.
Elle me dit, après, ferme ta gueule, peut-être.
Mais non. On est dans un live de la bienveillance, bien sûr, pas du tout s'insulter. À voir.
Je suis super contente d'être là, Mimi. Merci beaucoup de
et
gérer encore et de faire en sorte que ce live puisse exister. Car ça aurait été que moi, ça aurait vraiment été très compliqué. On aurait été sur Google Meet avec vous tous. Hein. Bref, ça aurait été une sacrée affaire, quoi.
On est parfois ensemble physiquement. Le premier épisode, on était sur mon canapé, parfois à distance, ouais. Parce que Kalindi va sûrement vous présenter du monde qui la retient chez elle. Mais avant tout, ouais. Qui es-tu, oui, Kalindi, pour celles et ceux qui peut-être découvrent cette formidable personne que tu es là, maintenant, aujourd'hui?
Enchantée. Déjà, vous saurez que c'est la première fois que je suis propre depuis très longtemps. Je me suis lavée
c'est
pour vous,
bien
vous pas les cheveux.
Comme ça.
Oui. Enfin, je vous raconterai, mais bon, enfin, ou pas. Mais mon ballon d'eau chaude a lâché, du coup, pour me doucher, je suis obligée de faire chauffer une casserole, et après, je prends l'eau et je la jette sous mes aisselles, comme ça, enfin, c'est terrible.
Ah ouais, en mode Moyen-Âge, quoi.
En mode Moyen-Âge. Je m'appelle donc Kalindi Ramphel, je suis anciennement journaliste, c'est comme ça que j'ai rencontré cette chère Mimi, qui était ma boss.
Et ouais.
Je suis trop contente qu'on soit désormais sur un pied d'égalité, ça me fait un peu plaisir.
Parce que j'étais une chef tyrannique et désagréable, qui pensait toujours que Kalindi avait 38 ans, alors que non.
Ouais, c'était terrible parce que j'en avais vraiment 25 à l'époque. Mais bon, bref, c'est une autre affaire. J'étais journaliste, j'ai officié pendant quelques années chez mademoiselle.com. Et puis, depuis 3 ans maintenant, j'écris de la fiction. Je sors mon premier roman, Les Jours Mauves, le 2 mai aux éditions La Teste.
Est-ce qu'on peut tous et toutes
je crois,
mettre
ouais,
un énorme big up Kalindi dans le chat, puisque Kalindi sort son premier roman. Toi, tu le dis comme ça en mode, ouais, c'est une petite acte, tu vois là en passant. Son premier roman va être publié chez La Teste le 2 mai.
C'est super.
Ça ouais, s'appelle Les Jours Mauves. Il y a déjà un lien ou pas?
Vous pouvez le précommander sur le site de la Fnac normalement. Cependant, il n'y a pas la couve qui sera révélée que demain. Mais bon, bref.
Oh my god, c'est demain? Attends, mais même moi-même, j'apprends des choses. C'est incroyable. Bon, la MIF, c'est très important. Je vais vous mettre un lien dans le chat et vous êtes tous et toutes obligés de cliquer dessus parce que c'est moi qui l'ai fait et que j'en suis très fière. Et dedans, il y a un lien vers ton bouquin. Donc, c'est bien.
Ouais, super.
Regardez-moi comme c'est beau. Cette page qu'on a fait à la base pour les ateliers d'écriture qu'on co-anime et dont on va vous parler. Ah, la couverture, c'est demain, je suis trop émue en vrai. Franchement, c'est
ouais,
vraiment
je suis contente. Écoutez, je suis mi-contente, mi-j'ai envie de sauter par la fenêtre, mais je suis au rez-de-chaussée finalement, donc ça ne servirait pas à grand-chose.
Juste à te rouler dans l'herbe.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, mon premier roman sort le 2 mai. N'hésitez pas à l'acheter, n'hésitez pas à l'acheter pour vos amis, pour l'acheter à vos parents, pour l'acheter à tous les gens que vous aimez. Ou que vous détestez aussi, enfin, c'est, voilà, achetez-le en fait, quoi qu'il en coûte,
quoi
car c'est ma porte d'ouverture pour publier mon deuxième roman que je suis en train d'écrire, qui s'appelle Tous les hivers d'Anchorage, on aura le temps d'en reparler. Et à côté de ça, j'écris des petits scénarios que j'essaie de vendre de ci, de là. Et puis évidemment, avec cette bonne Mimi, on a créé les ateliers d'écriture Le Cas, qui se déroule tous les lundis de 19h à 21h sur Twitch.
Non, puisque nous, sur Discord, c'est pas sur Twitch.
En plus, je veux dire, sur
on
Discord,
y était presque, t'étais trop bien lancée.
Sur Discord, puisque nous multiplions ici les canaux évidemment technologiques.
Tout ce qui est visio, vraiment, c'est une passion. Donc on essaye tous les systèmes de visio qui existent.
Et donc, le concept, il est simple, c'est que vous venez apprendre pendant 4 semaines consécutives, vous venez apprendre à écrire une nouvelle de A à Z depuis la conception d'un plan, puisque finalement, il y a des gens qui utilisent ce procédé, jusqu'à l'incipit, en passant par l'élaboration et la caractérisation des personnages. Moi, j'anime les ateliers et Mimi m'a aidée à les co-créer, puis gère toute la logistique d'une main de maîtresse.
Oh,
elle est exceptionnelle.
Moi, je fais des serveurs Discord and shit.
Bah ouais, non, franchement, c'est très impressionnant. Moi, je me pointe et je donne mon avis. Voilà,
c'est bah, toi, t'apprends aux gens à écrire, donc c'est quand même pas facile, tu vois, c'est un vrai truc, quoi.
Oui, mais bon, je dis toujours aux gens, tu sais, c'est fou parce que souvent, la première semaine, les gens viennent en me disant, mais putain, je me sens pas légitime, je sais pas écrire et je suis là. Vraiment, littéralement, c'est le premier truc qu'on apprend à faire à l'école. Tout le monde, enfin, la plupart des gens savent écrire et donc vraiment, j'apprends à faire en sorte que vous reconnectiez avec votre créativité et que vous puissiez élaborer les histoires qui vous trottent dans la tête depuis longtemps. Ou que vous élaborez d'ailleurs pour les cours. Hein. C'est il y a plein de gens qui viennent qui n'ont pas trop d'idées, puis on voit un petit peu ensemble comment développer des débuts d'histoire. Et on va bientôt lancer les masterclass.
C'est la grande nouvelle, ça y est.
Mimi va vous parler.
Tout à fait. Donc, comme Kalindi assure les cours le cas et que, comme elle vient de vous le dire, elle va sortir un livre, eh bien, parfois, elle va être un peu occupée. Elle n'aura pas forcément le temps, mais ce n'est pas grave parce que on lance une nouvelle formule le cas. Cette fois-ci, c'est pas des ateliers d'écriture toutes les semaines pendant un mois. C'est une masterclass unique qui aura lieu un soir en remote aussi pour que tout le monde puisse y participer, même si vous n'êtes pas à Paris, parce qu'on n'est pas trop dans la team parisiano-centrée, même si Kalindi a malheureusement grandi à Levallois-Perret. Et c'est masterclass.
C'est la banlieue.
C'est vrai. Et c'est masterclass. L'idée, c'est d'inviter un ou une pro de l'écriture, d'un domaine spécifique de l'écriture, la littérature, la publication, voilà, tout ce qui gravite autour, et de lui confier un groupe de participants et participantes. C'est donc quelqu'un qui va vous apprendre à faire ce qu'il ou elle sait faire. Et on est très, très fiers parce que la première, vous pouvez vous inscrire à la première masterclass qui sera animée par Quentin Zution, auteur de BD, super, dessinateur, oui, illustrateur et surtout grand raconteur d'histoires qui touche et qui brise le cœur, un peu comme celle dont on va parler aujourd'hui. Quentin Zution, on lui doit Chromatopsie, Toucher, Appelez-moi Nathan, entre autres œuvres assez majeures. Et c'est quelqu'un qui a une écriture extrêmement délicate et très inspirée de sa propre vie et de ses propres émotions. Du coup, le thème de cette première masterclass, c'est l'autofiction. Comment se nourrir de soi pour raconter des choses? Comment trouver l'équilibre entre raconter la vérité et faire en sorte que la vérité devienne de la fiction? Et comment peut-être aussi dépasser parfois le syndrome de bah non, mais c'est hyper égocentrique, je vais raconter ma vie. Et si, car bah on va le voir dans ce book club, parfois juste une vie, ça fait déjà une très bonne histoire. Donc la première masterclass, c'est en ligne. Vous pouvez vous inscrire genre maintenant sur le site que je vous ai mis et sur lequel vous êtes obligé de cliquer parce que c'est moi qui l'ai fait et qu'il est beau. Et je vous mets aussi directement le lien de la billetterie, comme ça vous avez pas d'excuses. Et franchement, genre, on est très très contentes de faire ça. Kalindi et moi, on est toutes les deux créatrices indépendantes, donc bien sûr, c'est à la fois un moyen de gagner des revenus, mais aussi bah de diffuser notre passion pour l'écriture et la lecture au plus grand nombre, et de recollaborer avec des personnes avec qui on a aimé travailler et qui écrivent très bien, pour vous teaser un petit peu la suite. Donc on va essayer d'en faire deux par mois au moins, puisque c'est juste un soir. Et on va essayer de... Alors, on a déjà de booker une éditrice. On chasse une agente d'auteur et d'autrice. On a une romancière plutôt jeunesse. On a une autrice de jeux de rôle et d'autres BDistes qui vont sûrement passer dans les masterclass le cas. Vous pouvez sur le site rentrer votre mail pour avoir des infos sur c'est quand les prochaines. Et puis, si c'est les ateliers d'écriture qui vous intéressent, du coup, il n'y en aura pas en avril, il n'y en aura pas en mai. Enfin là, il y en a en cours, mais il n'y en aura pas d'autres avant, je pense, juin, puisque tu vas faire la tournée des librairies. Et ensuite, selon, bien sûr, le succès de Kalindi, peut-être qu'elle voudra plus traîner avec moi, parce qu'elle sera avec les puissants. Mais si elle veut bien, eh bien, on refera des ateliers d'écriture.
C'est ce qui arrive quand on écrit un premier roman, d'ailleurs. Hein. On arrive tout de suite à des sphères hyper...
Mais moi, je crois que tu vas ton quart. Alors par contre, non, l'écriture n'est pas un métier rentable. Mais je ne dis pas que tu vas être riche, mais je pense que tu vas ton quart.
C'est très gentil, écoutez, j'en ai besoin car j'aimerais racheter un ballon d'eau chaude. Car le saviez-vous, vous l'avez avec de l'eau à 14 degrés, ça n'est pas une partie de plaisir, voilà. Mais en tout cas, on est trop contents d'avoir lancé ces deux formats et écoutez, j'espère que vous serez nombreux à vous inscrire.
Oui, tout à fait, que j'ai pas fait un site web pour rien.
Chouette format.
Grave.
Il est magnifique aussi, tu sais, j'ai recliqué sur le lien, j'ai fait comme tu nous as tous enjoint à faire.
Merci.
Et je l'ai refait alors que je le connais par cœur, il est vraiment splendide.
Ça me touche, ça me touche. C'est vraiment, vraiment juste une landing page. Donc, si vous êtes quelqu'un qui sait vraiment faire des sites web, peut-être que ça ne vous impressionne pas. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà.
Mais tu sais, moi, j'arrive même pas à faire le Linktree donc, sur Instagram. Donc finalement, cette landing page-là, que c'est apparemment comme ça qu'on dit.
C'est le futur.
C'est formidable. Ouais, franchement, c'est super. Ah, coucou, Momo.
Eh oui, c'est Momo qui se balade. Coucou, Momo.
J'ai moi-même j'ai plusieurs animaux qui se baladent, dont Chuchu. Attendez, Chuchu qui...
La 4K. Bonjour. Bonjour. Ah, lui,
salut,
il est bête.
Chuchu.
Est-ce qu'on peut faire un face reveal de ta nouvelle... ton nouvel enfant?
Ouais, faut que j'aille la chercher. Vous avez
une seconde. Je pense qu'ils ont une seconde, je pense.
Allez, j'arrive.
Travailler avec Alindy, c'est vraiment un moment de vie toujours surprenant. Parce que il y a quelques jours, je lui ai dit hey, est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord justement pour les ateliers Leca, pour voir quand est-ce qu'on reprend après la sortie de ton livre et tout. Et elle m'a dit, je te réponds quand je sors de chez le vétérinaire. Je lui ai dit, ah non, tes chats, ils sont malades. Et elle m'a répondu cette phrase normale qui est non, je viens d'adopter un chiot sur un coup de tête. Je l'ai acheté à une dame dans la rue et du coup, je dois l'amener chez le véto. J'étais là, ah, une décision normale. Mais c'est donc l'intronisation sur Twitch de cette merveilleuse créature. Jenny Flair Truffanker de son nom.
Attendez, je m'embrouille avec mes écouteurs, j'arrive.
Elle va te mâchouiller les écouteurs, ça va être la fin de ce live. Et moi, mais regarde, j'ai Momo qui snuffe la cam. Mais c'est complètement con ce live, y'a rien qui va.
De quoi?
Y'a Momo qui est vraiment en train de renifler la cam des fois, et du coup, on voit ses vieux poils là.
Coucou.
Jenny Flair Truffanker. Non, mais sa tête.
Jenny Flair.
Non, mais sa tête. On n'en peut plus. Est-ce que tu as des recommandations qu'Alindy a à faire concernant tout ce qui est adoption d'animaux prémédité
Ouais, peut-être avant d'adopter un animal, n'hésitez pas à réfléchir. Ça peut être intelligent. Alors moi, en l'occurrence, je suis très fan du sauvetage sauvage. Donc je vois des animaux, je les sauve.
Elle les vole pas, hein, parce que dit comme ça, on dirait un peu que tu les voles dans la rue, mais non, elle les vole pas.
Non, là, je l'ai payé à des gens qui s'en occupaient pas très bien et elle n'était pas dans un super environnement, donc je me suis permise de proposer de la récupérer pour une petite somme d'argent. Elle m'a dit oui tout de suite, parce qu'il s'avère que ces gens faisaient du trafic de chiens. Bon, bref, je l'apprendrai plus tard. Anyway, du coup, je me retrouve avec ce petit chien qui est Jennifer Truffanker. Et pour l'instant, je suis sa famille d'accueil. Je ne sais pas encore que faire, parce qu'au début, je voulais vraiment lui trouver une famille qui serait plus apte que moi, parce que moi, je bouge beaucoup. Et puis en fait, elle s'entend pas hyper bien avec mes chats. Donc, elle les niaque en permanence, puisqu'elle est complètement possessive avec moi. Et donc,
quelle
c'est un
meuf.
Peu compliqué, parce que mes autres animaux n'arrivent pas à me faire des câlins. Enfin, bon, bref. Du coup, je voulais lui trouver une famille.
Mais ça veut dire... te séparer de cette petite bouille, ce qui est, je pense voilà. Que le chat peut compatir, c'est compliqué. Personnellement, je lui ai caressé le bidou deux fois et je mourrais pour elle en une seconde, sans aucune forme d'hésitation. Donc
après, elle jappe quoi, elle jappe, elle a son petit caractère.
Elle est vraiment toute petite et à peine sevrée et tout, donc on va voir aussi comment ça se passe l'éducation canine, n'est-ce pas?
Exactement.
Est-ce que tu vas lui prendre un médium pour chien?
Si une telle chose existe, je veux bien y avoir recours. Néanmoins, je rappelle que ma marraine communique avec les animaux déjà.
Bien sûr, donc, bien sûr, tu as une marraine télépathe. Ça marche avec tous les animaux.
Chamane. Alors, je sais qu'elle fait les lapins, les chevaux, les chiens et les chats, en tout cas. Mais par exemple,
c'est déjà éclectique.
C'est déjà pas mal. Oui, c'est carrément éclectique. Et elle a notamment appris par le lapin d'une de ses amies que son amie était enceinte. Elle ne le savait
pas. J'essayais vraiment de garder mon sérieux. Tu peux pas me dire, elle a appris par le lapin de son ami. Et espérer que, genre, je respecte toutes les croyances, y a pas de problème, ok? Mais waouh, la phrase, elle a appris par le lapin de son ami que son ami était enceinte. C'est magnifique, quoi.
Je vais juste séparer les, je vais sortir le chien parce qu'il y a le chat. Bon, bref, à tout de suite.
Vous voyez avec quoi on doit travailler? Vous voyez, c'est ça, travailler avec Alindy, c'est ce genre de phrase, c'est ce genre de moment. On est là pour chialer. Et puis d'un coup, bam, ouais, elle a appris par le lapin de son ami. Bon, voilà, c'est Kalindi.
Non, mais écoutez, c'est formidable parce que quand moi j'ai recueilli la Poupouchou, ma petite chatte que j'ai depuis presque 2 ans, il s'avère qu'avant, elle ne s'entendait pas avec le chien de ma mère, Langue Jambon. Et un jour, je vais en Bretagne et il y a ma marraine donc, qui parle aux animaux. Et je dis à ma marraine, écoute, c'est chiant, ils ne s'entendent pas tous les trois, machin. Et un matin, je vais pisser, donc je passe devant la chambre de ma marraine, il était très tôt, et je vois dans la même chambre, au pied du lit de ma marraine, Langue Jambon, la Titounette et le Poupouchou, tous les trois en randonnion, comme ça, en train de regarder ma marraine, et ils cohabitaient enfin. Et depuis ce jour, force est de constater, puisque ma marraine les a accueillis dans son coquillage intérieur, qui est sa salle où elle réunit les animaux, leur a expliqué qu'il fallait être gentil, et depuis, ils s'aiment. Voilà.
Et bah, du coup, peut-être qu'elle pourra réconcilier la titounette, le poupouchou et Jennifer Truffanker afin que tout ce petit monde vive en harmonie. Bien sûr. Speaking of voilà. Réunir des gens pour qu'ils vivent en harmonie, on va passer au sujet qui nous réunit ici. Alors, le Book Club épisode 2, comment ça se passe? Le Book Club, déjà, c'est tous les mois, à la fin du mois, sur cette chaîne Twitch, abonnez-vous. Et Kalindi et moi, à tour de rôle, on se fait découvrir un livre qu'on a aimé. On a donc commencé, ou qu'on a envie de découvrir. On a donc commencé le mois dernier avec Le Problème à trois corps en prévision de la série Netflix. Et on change totalement de style ce mois-ci avec le livre choisi par Kalindi, qui est donc Où vivaient les gens heureux, un livre écrit par une romancière américaine du nom de Joyce Maynard. Si jamais vous n'avez pas lu ce livre, sachez qu'on va vous donner dans un premier temps un avis sans spoiler. Voilà, est-ce que ça vaut le coup de le lire? Pourquoi Kalindi l'a choisi? On a le chat aussi qui va pouvoir réagir, puisque je vois que vous êtes beaucoup, beaucoup à avoir subi, à avoir vécu, comme moi, cette déchirure finalement, car c'est un livre qui fait pleurer. Et ensuite, on vous fera une petite spoiler alerte et on vous parlera plus en détail de plein de thématiques du livre et on pourra rentrer dans ce qu'il raconte sans avoir peur de se gâcher la surprise, puisque vous êtes censé avoir fait vos devoirs quand même. Alors, Kalindi Rampfel, pourquoi Où vivaient les gens heureux? Déjà, pourquoi tu l'as choisi?
Alors, je l'ai choisi à l'origine, pas pour ce book club. Je venais de le lire quand on a fait l'épisode du Problème à trois corps. Je venais à peine de terminer ce roman que j'avais choisi parce que, en fait, j'avais vu une vidéo de la romancière Maud Ventura qui a cartonné il y a 2 ans en sortant, ou l'année dernière, je ne sais plus, en sortant Mon mari, qui a été un best-seller international, enfin, incroyable success story. Et elle
qui sera peut-être une des personnes qui donne des masterclass le cas. Abonnez-vous pour ne rien rater.
J'espère.
C'est pas du bullshit en vrai, j'ai son numéro, donc c'est en cours.
Ouais, elle est formidable. Enfin, je la connais pas personnellement, mais j'aime beaucoup la nana derrière l'écrivaine. Et en fait, je regardais Instagram, comme à chaque instant de ma vie, et je vois une vidéo d'elle passer où elle est interviewée par je sais plus quel média. Et donc, elle conseille 3 bouquins qui ont un peu bouleversé sa vision de la littérature.
I get it.
Et dedans, il y avait Où vivaient les gens heureux. Et elle commence à expliquer pourquoi c'est un bouquin qui l'a particulièrement touchée, le rapport de l'héroïne avec la maternité, avec son mari, etc. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie, là, en allant dans ma maison de campagne, de me lire un livre sur une nana, justement, qui vit dans une ferme. Oh voilà, qui fait famille comme ça et tout. Je me suis dit, ça me semble parfait à lire au coin du feu.
Pour une comme ça, plaisir, tu peux éteindre le feu avec tes larmes. C'est super. C'est pratique.
Bah, moi, j'ai pas pleuré. Écoute,
mais t'as pas de cœur.
On y viendra plus tard. C'est un livre qui m'a énormément plu, mais qui m'a pas non plus ultra bouleversée. Donc voilà, mais on y reviendra. Et du coup, je me suis dit que ça serait hyper sympa de te faire chialer, parce que je m'en doutais un peu.
Bah ouais,
après,
merci.
Après, tu m'as eu obligée à lire Le Problème à trois corps.
En vrai, c'est de bonne guerre, puisque je t'ai obligée à lire un livre où il y a des mots comme onde sinusoïdale. Du coup, tu t'es vengée en disant, tiens, qu'est-ce qu'elle aime pas, Mimi, les émotions? Bah, on va lui en mettre plein dans la gueule. Je n'ai jamais autant pleuré. Et quand je dis pleurer, c'est sangloter. Que devant ce livre de ma vie, et je pleure rarement devant les livres déjà en général, donc c'est pas du tout habituel pour moi. Bien sûr, on parlera en détail du moment où ça a craqué, où ça s'est juste plus arrêté de mon côté. Et juste des fois, je pleurais et j'arrivais plus à lire parce que je sanglotais. Je devais enlever mes lunettes, poser le livre et m'essuyer les yeux et me remettre à lire et à continuer à sangloter. C'était vraiment incroyable.
Je peux te poser une question?
Oui. C'est une discussion.
C'est devenu vraiment ultra formel. Non, mais comme c'est toi qui lead. Non, mais est-ce que t'as... Mais peut-être que tu voudras en parler après. Mais est-ce que t'as pleuré parce que ce livre t'a particulièrement touché? Ou est-ce que c'est parce que c'est un style de littérature que tu lis pas d'habitude? Et du coup, peut-être que... Je sais pas, tu vois, je me suis dit, ça se trouve...
Je suis peut-être moins habituée.
Ouais.
Bah, en vrai, oui, il y a du... Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que le livre a plein de qualités en soi et que dans ses thématiques et dans... ce qu'il aborde, ça m'aurait touché anyway. Mais c'est vrai, tu mets le doigt sur un truc vrai, qui est que moi, je lis assez peu de drames familiaux. Je lis plutôt de la littérature de genre, donc beaucoup de fantasy, un peu de SF, un peu de... Ouais, fantastique, qui n'est pas vraiment de la fantasy, mais voilà, des trucs dans des mondes un peu imaginaires et tout, et de l'horreur avec Stephen King. Donc, il y a parfois des histoires de famille, comme ça peut être le cas dans Où vivaient les gens heureux, notamment du côté de King, il y en a quand même pas mal, et dans la fantasy, on sait bien, Game of Thrones, House of the Dragon, il y a des bails de famille, mais il y a toujours ce filtre qui fait que je ne suis pas en frontal sur un truc aussi réaliste, en effet, et je pense que c'est en partie pour ça que j'aime bien la littérature de genre, c'est que c'est compliqué pour moi ce niveau-là de vulnérabilité. Enfin, tu vois, j'ai peut-être besoin de cette barrière un peu de. Ok, c'est hyper poignant, mais il y a des dragons, tu vois. Donc c'est pas vraiment genre je m'y dans là. Pendant ce, j'ai à un moment j'ai arrêté le livre et j'ai écrit à ma mère que je l'aime et j'avais envie d'appeler ma mère et lui parler. Tu vois, j'ai jamais eu envie d'appeler ma mère en lisant fucking Game of Thrones. Ça aurait été bizarre. donc oui, clairement, je suis un peu, je pense. Enfin, après, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que je lis pas beaucoup ce genre de livre parce que je suis très sensible à ça ou à ce type d'émotion, ou est-ce que c'est parce que j'en lis pas beaucoup que je suis, voilà, je suis pas habituée, du coup, ça me prend de court. Je pense qu'il y a un peu des deux, mais ça m'a donné envie d'en lire plus, en tout cas, de drames, voilà, intimes, de choses qui n'ont pas forcément besoin de magie et de sorciers pour me parler. Et je pense que ça m'a aussi donné envie de lire des femmes plus, ce qui est un peu le but de ce que j'aimerais bien faire avec ce book club. J'aimerais bien rattraper mon retard en littérature féminine, donc écrite par des femmes. Bon, alors, il se trouve que j'ai choisi le problème à trois corps en premier parce que sinon je l'aurais pas lu et j'aurais eu la flemme et je voulais le lire avant la série Netflix. Mais je suis très contente aussi d'avoir je pense que cet aspect-là du livre, en plus, voilà, au moment où j'en suis dans ma vie, je suis une femme, j'ai 32 ans, etc. Ça m'a aussi beaucoup, ça a vibré, quoi. Et puis voilà, peut-être je suis une fragile, on sait pas, hein, c'est possible. Mais si je suis une fragile, tout le chat, vous êtes des fragiles aussi, parce que je suis pas toute seule, ok, à avoir chialé.
Bah ouais, j'ai l'impression.
Est-ce que tu veux tenter de... Ouais, pas de soucis. Donc sur le chat, on a Amilaya qui dit que c'était des pleurs d'émotions très variées, de la joie, de la tristesse, de la frustration, de la peur. Jimmy qui nous dit « J'ai ressenti un vague ennui au début, de l'intérêt au moment drama, puis une profonde dépression ». Et Taylor Nocturne nous dit « J'ai pas pleuré, j'étais juste frustrée et en colère et aussi en full stress post-traumatique. » C'est vrai que quand t'as vécu des choses familiales compliquées, ça peut, si ça appuie sur des choses qui font écho en toi, ça peut vraiment être un sacré ride, je pense. Et alors moi, personnellement, je m'étais pas du tout renseignée sur le livre avant de le lire parce que j'aime bien être surprise, donc je savais pas dans quoi je m'engageais. On va pas encore une fois, on va pas vous spoiler pour l'instant le contenu du livre, mais on va quand même essayer de vous le résumer. Est-ce que tu veux essayer, Cal, de résumer?
Bah oui, moi je suis connue comme la pire pitcheuse de l'Ouest, mais écoutez, je vais essayer. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Eleanor, dans sa vingtaine, décide d'acheter une vieille ferme dans le New Hampshire, je crois, hein, c'est ça, dont est d'ailleurs originaire Joyce Maynard, et elle. Son désir profond, c'est vraiment de créer une famille, de faire famille. Et elle rencontre un artiste qui, notamment, fabrique des bols en bois et autres pièces artistiques qui lui rapportent pas beaucoup de sous. Elle rencontre ce type qui s'appelle Cam et qui est un espèce de type dont elle tombe assez vite amoureuse, et c'est réciproque. Et au début, eh bien, entre eux, c'est la passion. Ils tombent fous amoureux, ils font beaucoup l'amour et ils commencent à faire des enfants au nombre de 3, ce qui est quand même assez conséquent.
C'est pas mal.
Je le sais, de source sûre, puisque j'ai 2 chats et 1 chien. Alors j'imagine.
Personnellement, j'ai 2 sœurs, donc on est 3 et c'est pas mal, c'est du taf. En effet, 3 enfants.
Ça a l'air énorme. Moi, je suis fille unique, donc ce sont des rapports que je ne connais pas, que j'ai du mal à comprendre et j'aime beaucoup lire là-dessus, justement, parce que ça m'est complètement inconnu. Et cette famille va vivre au départ en harmonie, plus ou moins, même si le personnage d'Eleanor va porter la charge de tout le ménage, de l'éducation des enfants et la charge financière aussi, puisque c'est elle qui rapporte finalement l'argent à la maison. Et un jour va survenir un drame qui va bouleverser l'équilibre déjà fragile de cette petite famille. Et c'est en grande partie les conséquences de cet accident, de ce drame, et comment la famille va y faire face et comment ça va détruire, évidemment, le couple Eleanor-Cam.
Est-ce que j'ai bien résumé ? Bravo, tout à fait. Oui, et pour le coup, c'est vraiment pas un spoiler de dire détruire le couple, puisque c'est littéralement le premier chapitre. On sait qu'ils se sont pas vus depuis très longtemps et que qu'ils sont séparés. Donc voilà, en fait, ça commence avec Eleanor âgée, le premier chapitre, et ensuite, on va retracer toute sa vie pour finir par reboucler, ce qui est déjà un truc d'écriture que moi j'aime bien. J'aime bien les films qui commencent par la fin, tu vois, les trucs comme ça, comme Casino. Ouais, c'est... Et c'est un bouquin, on va décrypter plus ça, on va décrypter tout ça un peu plus dans la partie spoiler, mais qui, je trouve, est résolument féministe, puisque donc ça, elle, je crois que c'est dans les années 70 qu'elle achète sa ferme et qu'elle rencontre son mari, et du coup, c'est une société qui, évidemment, où la place des femmes se transforme, évidemment, énormément dans les 40 ans qui nous... 50 50 ans, 60 ans, 50, on sépare des 50, années 50, 70, ouais. Avec la libération sexuelle, l'accès à la contraception, mais aussi la peur, le sida dans les années 80, le féminisme de troisième vague, la découverte de concepts comme la charge mentale, etc. C'est une vraie thématique, c'est vraiment une vie de femme, quoi. C'est la vie d'une femme, et c'est important que ce soit une femme, et ça va colorer évidemment énormément sa vie. Est-ce que tu connaissais l'autrice Joyce Maynard? Parce que moi non, mais j'ai cru comprendre que c'est quelqu'un, mais comme je ne lis pas de drames intimes et trop peu de femmes, je savais absolument pas qui était cette personne.
Ouais, moi je la connaissais parce qu'elle avait écrit un roman que j'avais pas lu, mais dont la thématique m'intéressait beaucoup, sur l'histoire, je crois, d'une petite fille qui adore sa maman, parce que je crois que c'est un peu ce qui infuse tous les textes de Joyce Maynard, c'est son rapport à la maternité, parce que même Où vivaient les gens heureux, ça reste de la fiction, mais c'est très largement inspiré de sa vie de mère et de femme. Elle en parlait, je regardais une interview l'autre jour où elle raconte qu'elle aussi a subi un divorce très douloureux, où ses enfants n'ont pas été super tendres avec elle non plus, etc. Donc ça reste de la fiction, mais il y a quand même un écho très fort chez elle. Et donc, c'était l'histoire, ce bouquin, je ne sais plus comment il s'appelle, mais d'une gamine qui est très fusionnelle avec sa mère, et sa mère, un jour, part travailler... le 11 septembre 2001 et
vas-y. Voilà.
Toujours dans le fun, Joyce, bien sûr. Joyce aime le fun.
elle alors, est trop là pour vraiment nous ruiner, quoi. Vais prendre là clair. Où ça fait
c'est clair. Donc non, je connaissais Joyce Maynard parce que je voyais son nom régulièrement passer. Toutefois, fait partie de ces gens, tu vois, dont je sais qu'ils existent et dont j'ouvre jamais les bouquins. Il a vraiment fallu que ce soit une recommandation d'une nana dont j'ai même pas lu le livre, parce que moi j'ai pas lu Mon mari de Maud Ventura. Mais je me suis dit, tiens,
on fera peut-être dans le book club, du coup.
On fera peut-être dans le book club. Et en plus, moi, pour le coup, contrairement à toi, Mimi, je suis très fan de drames familiaux, de drames intimes. C'est vraiment 98% de ce que je consomme. Et c'est ce que j'écris moi-même. Donc c'est vraiment la matière première de mon amour pour la littérature. Mais Joyce Maynard, alors l'autre jour, je me trimballe sur Internet pour regarder un peu sa life. Et c'est drôle parce que j'ai mon ami Frédéric Muraroto qui m'écrit « Ah, j'ai vu que le book club avec Mimi, c'était sur Où vivaient les gens heureux. » C'est drôle, j'ai eu Joyce il y a quelques années en interview pour je ne sais plus quelle sortie de bouquin.
Et
elle me dit parce qu'elle parle très bien français en plus, et donc elle
mais
me fait la promo.
Ah non, ouais, comme Jodie Foster, trop classe. Oh là là.
Alors non, moins bien, beaucoup moins bien que Jodie Foster.
D'accord.
Vraiment de manière plus laborieuse, mais néanmoins
C'est quand même impressionnante, classe.
C'est clair. Et en fait, donc elle venait faire la promo de son bouquin, et il me dit, écoute, elle est formidable. Savais-tu que Joyce Maynard a ouvert une baraque, je crois que c'est au Guatemala, où elle fait des résidences d'écriture, un poil plus classe que le cas. Hein. Je veux pas.
Mais non, j'allais dire, on fait une collab. Il y a pas de souci, on fait une collab le cas dans la résidence de le cas featuring Joyce Maynard. On y croit. Franchement. Objectif 2025. Inscrivez-vous à nos masterclass et tout, parce qu'il faut qu'on ait un peu du clout, du coup, pour qu'elle réponde à notre mail, je pense.
C'est clair. Bah ouais, alors en plus, je lui ai écrit un message, elle m'a jamais répondu. Enfin bon, bref. Et du coup, donc elle a ouvert, je crois que c'était au Guatemala, sa baraque.
Oui, elle en parle dans la postface, dans les remerciements ou quoi. Parce qu'elle remercie les deux étudiantes qui étaient avec elle pendant qu'elle l'écrivait. Puisque donc, elle reçoit des aspirantes romancières, hein, j'imagine, ou des romancières confirmées. Et elle dit qu'en fait, elles se sont retrouvées coincées là-bas pendant le confinement. Donc, elle s'est retrouvée coincée avec deux jeunes femmes qui, en plus, viennent vraiment chacune d'un autre bout du monde, quoi. Et que ça l'a beaucoup inspirée et qu'elles ont fait beaucoup de retours, du coup, sur son texte, qui est quand même genre... En vrai, c'est classe, quoi. T'es là, oh, t'as fait quoi pendant ton confinement ? Non, moi, j'ai aidé Joyce Maynard à écrire... Son best-seller, ouais. Bon, je l'ai pas écrit, je l'ai aidé, quoi. Je lui ai fait des retours, quoi. Incroyable.
J'adore. Et du coup, je vais sur le site du truc, des pioles magnifiques au bord de la mer. Oh, je commence à regarder les prix, je me dis, bon, vas-y, je fais ça cet été. Je vais écrire un roman avec Joyce Maynard, ça va être super. Je lui écris en disant, salut Joyce, quelles sont les prochaines dates? C'est pas écrit sur ton site. Elle never answered. Donc, écoutez.
Est-ce que tu as cherché peut-être un autre moyen de trouver ces informations que. Envoyer un DM directement à une autrice de 70 ans qui est mondialement connue?
Alors ouais, j'ai regardé sur son site en fait, et le truc c'est qu'il y avait pas, il y avait les dates de avril, je crois, il y avait pas pour cet été. Et je lui disais, bah moi c'est mon rêve de venir un petit peu bosser avec vous et tout, mais c'est vrai que bon bah j'aurais besoin de m'organiser si c'est cet été, donc est-ce que vous avez les dates? Et elle a même pas ouvert mon message, donc je pense qu'ils sont tombés dans ces DM que moi j'ouvre mais que les gens n'ouvrent pas apparemment, parce que j'ai écrit un message l'autre jour à je sais plus quel acteur français qui n'a même pas ouvert non plus. C'est depuis que j'ai découvert les DM, c'est-à-dire très récemment, j'en envoie à plein de gens, c'est terrible. Et du coup, Joyce m'a même pas laissé en vue, elle ne l'a pas ouvert.
Ok, tu sais quoi, je vais me noter d'enquêter un petit peu. Il est possible qu'il y ait un autre système pour avoir l'info des dates de tes prochaines résidences d'écriture de Joyce Maynard que juste lui envoyer un DM. Et c'est mon rêve, finalement, que tu ailles au Guatemala travailler avec Joyce Maynard sur ta prochaine... le prochain drame familial qui va me briser le cœur, signé Kalindi Rampfall. Donc, j'ai envie de make it happen, tu vois. Moi, j'y crois.
Ce serait formidable. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner aussi si ça vous intéresse. Je crois que c'est très cher.
Je pense que c'est pas donné. En plus de, bien sûr, c'est pas défrayé. Il faut aller soi-même au Guatemala.
Yes.
Salut Sweet Pea, salut. Oui, désolée, on parle pas énormément avec le chat, mais on vous lit bien sûr, et on vous voit, et on est content que vous soyez là. Il y a Terreur Nocturne qui a dit je moto trigger warning relation parent enfant difficile. Alors c'est vrai qu'il y a, alors je suis pas adepte des, enfin personnellement je suis pas adepte des trigger warning puisque je ne lis même pas le résumé d'un livre avant de le lire puisque je n'aime pas les spoilers et j'ai envie de tout découvrir. Mais dans les thématiques qui peuvent être, il y a des thématiques un peu dures dans ce livre, et notamment un sujet autour de la transidentité, qui est, puisque un des personnages transitionne pendant l'arc du bouquin qui dure donc des décennies, et la façon dont c'est traité, on en parlera un peu plus en détail quand on pourra parler avec spoiler, peut être discutable, voilà, c'est pas notre rôle de cancel qui que ce soit, mais on va en parler. Puisque c'est quelque chose qui m'a été amené par DM, en DM Insta, par quelqu'un qui du coup a lu le livre pour le book club. Et bah, c'est vrai, quand on a eu des relations conflictuelles compliquées avec ses parents, avec sa mère, etc., ça peut piquer. Je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a piqué, même si j'adore ma mère, je l'aime de tout mon cœur et on est en très bons termes adultes. Bah oui, il y a eu des tensions, notamment à l'adolescence et tout. Et bah, comme je te dis, à un moment j'ai posé le livre pour dire à ma mère je t'aime parce que j'étais là, ça me rappelle beaucoup de choses.
Pourquoi ?
Je lui ai conseillé le livre, mais je lui ai aussi dit attention, il y a des thématiques qui... Je pense que ce livre, quand t'es toi-même maman, c'est encore un autre niveau de Zumba, tu vois. Et c'est marrant que tu dises que toi, t'aimes bien ce genre d'histoire parce que t'as pas de frère ni de sœur et que du coup, c'est un lien qui te fascine un peu. Au final, bah, l'héroïne du livre, c'est vraiment la mère, donc, et elle a ni frère ni sœur. Donc, bien sûr, on voit les liens entre les enfants, mais c'est pas du point de vue des enfants, des frères et des sœurs. Mais pour moi, j'ai eu un peu le même sentiment sur le fait que je suis child free, donc je veux pas d'enfants. C'est pas un truc qui m'attire, la maternité. Et là, du coup, j'ai eu l'impression de découvrir, d'être plongée dans la tête d'une mère, quoi, et de comprendre plein d'aspects avec quoi ça va, c'est quoi tous les enjeux d'être maman, et de vraiment, et pour moi ça sert à ça aussi l'art, c'est à te faire ressentir ce que ressentent les gens qui n'ont pas la même vie que toi, tu vois, et là-dessus, ça m'a vraiment, ça a marché quoi, ça m'a pas donné plus envie d'avoir des enfants, bizarrement, hein, mais ça a marché.
Non ouais, c'est un livre assez bouleversant, je suis d'accord, je sais pas, c'est très étonnant, mais moi je crois que je deviens, j'ai la peau cuirassée, c'est terrible, parce que je pleure de moins en moins, et au cinéma, et quand je lis, même si j'ai plus tendance encore à pleurer quand je lis, puis moi j'adore pleurer, donc c'est vrai que dès qu'il y a des passages de livres qui me font chialer, je reviens dessus, je me fais pleurer, mais une musique qui me fait encore plus pleurer, je pleure de
yes, je vois. J'ai appris à apprécier pleurer, et en vrai j'étais contente d'avoir autant de trucs qui sortent pendant cette lecture, et de, tu vois, j'étais pas en train d'essayer de retenir mes larmes, j'ai juste été voir mon mec en lui disant... T'inquiète pas, c'est le bouquin de Kalindi, mais ça va, hein, je suis pas du tout genre vraiment triste. Et des fois, il passait dans le salon et il me regardait avec une pile de mouchoirs qui s'empilait. Il était vraiment en mode chelou ta vie un peu des fois. Mais j'étais contente.
Non, mais
je trouve que
c'est formidable, les émotions qu'on peut véhiculer juste avec de l'écrit, quoi. D'autant plus avec un livre qui, je trouve, demeure relativement froid. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on en parlait sur le problème à trois corps le mois dernier, où beaucoup de gens avaient dit que l'écueil de ce bouquin, c'était que tout était un petit peu froid, les rapports entre les personnages, etc. Et je trouve que c'est un petit peu aussi ce qui infuse ce bouquin-là. Mmh. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, pas beaucoup non plus, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans, parce que j'avais du mal à m'attacher aux personnages.
Oui, on n'est pas sur une héroïne immédiatement chaleureuse, charismatique. Au contraire, elle est fille unique et elle perd ses parents jeunes, l'héroïne, donc elle est orpheline. C'est aussi pour ça qu'elle tient tellement à fonder, à faire famille, comme tu dis, à acheter cette grande baraque et à avoir du bordel et des gamins qui courent partout. C'est parce qu'elle a vécu vraiment très seule. Et c'est pas la meuf la plus sympa du monde, mais je trouve que c'est bien parce que c'est aussi pour moi ça qui en fait quelque part... une œuvre féministe, tu vois, c'est que bah, cette femme qui, au premier abord, a l'air revêche et qui, bah, dans la scène d'intro, on comprend aussi qu'elle n'a pas parlé à son ex-mari depuis très longtemps, elle n'a pas parlé à ses enfants depuis très longtemps. Donc on se dit, bon, au bout d'un moment, si tout le monde ne veut plus te parler, c'est un peu toi le point commun, quoi. Peut-être qu'elle est pas. Peut-être ça va être l'histoire d'une mère qui a, je sais pas, fait vachement de mal à sa famille. Et j'ai fini par déborder d'empathie pour elle, sans non plus penser que c'est une sainte, mais juste. C'est complexe la vie, c'est nuancé, c'est compliqué. Ah ouais.
Non mais c'est ça, et moi ça m'a pris du temps, c'est-à-dire que je pense que pendant peut-être pas un tiers du roman, mais bon en tout cas la première partie, j'ai mis du temps à vraiment éprouver de l'empathie, etc. Et puis après ça m'a accueilli, surtout évidemment au moment du drame et à l'après.
Et là c'est le drame
et après c'est terrible. Mais finalement, je trouve que la froideur, au même titre que ça ne m'avait pas dérangé dans le problème à trois corps, ça participe de fou. À la puissance du roman, quoi. Donc, tu vois, au départ, j'étais un peu circonspecte et finalement, j'en suis ressortie en me disant waouh, j'ai vraiment pris une claquasse. Pas chialée néanmoins, mais j'ai pris une petite claque et j'arrêtais pas de dire. Alors, moi, je l'ai lu en plein de. C'était pendant mes vacances, donc j'étais ici, puis après, j'étais en Espagne et j'arrêtais pas de dire à Amaury, putain, je vais te faire lire ça, mon Dieu. Crois-moi, tu vas comprendre que c'est la charge mentale. Et t'es là, non, mais je veux pas lire ton bouquin, ça va. Laisse-moi tranquille, je vais faire les cours demain.
Ton conjoint, pour celles et ceux qui savent pas.
Et t'es là, arrête, je veux pas lire, j'irai faire les courses, promis.
Je laverai mes chaussettes, tu m'obliges pas à lire le livre. Sur le chat, il y a Steel Marty qui dit qu'il y a toujours de la distance avec l'héroïne. Tu sais jamais ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, etc. Il y a peu de dialogue. Et c'est vrai qu'elle n'est pas, on est pas sur une écriture qui nous dit, et à ce moment-là, ce qu'Eleanor ressentait, c'était blablabla. Mais je trouve que c'est, en tout cas, dans l'écriture, il y a un truc qui marche beaucoup sur moi parce que je pense que je fonctionne pas mal comme ça. C'est que il y a beaucoup de ce que moi j'appelle des déclencheurs où, en gros, elle va pas te dire, c'était compliqué l'accouchement à la maison dans les années 70. Elle va te dire qu'elle se souvient d'avoir mordu... Enfin, elle se souvient de la trace de ses dents dans le coin du matelas et de la lumière bleue et du match de basket qui passait à la télé parce que dans les années 70, les gars, tellement ils s'en battent les couilles de ta vie, t'es en train d'accoucher, ils regardent le basket et ils font cuire un steak alors que toi, t'as envie de bégère. Bref. Et en fait, c'est genre de... En fait, c'est ça qui te reste en tête, tu vois. Pour moi, ça, c'est vraiment la mémoire. Ça passe par des images, par des flashs un petit peu. Un peu comme, grande comparaison, dans Ratatouille, quand le critique à la fin mange la ratatouille et que ça le ramène à son enfance, bah, il y a un peu de ça, tu vois. Moi, je sais qu'il y a plein de moments dans ma vie dont je me souviens par des flashs. Et bah, c'est un livre que, du coup, j'ai trouvé pas du tout froid, que j'ai trouvé hyper organique parce que tous ces trucs, pour moi, c'est hyper humain, tu vois. On est vraiment la seule espèce qui peut voir un bouchon de liège et avoir immédiatement un flash à la première fois que j'ai emmené mon enfant voir une cascade, tu vois. Et du coup, ça, moi, je me suis... Mais peut-être parce que aussi j'ai grandi en réprimant mes émotions, pas mal, bah, je me suis pas mal identifiée à... Oui, le livre ne verbalise pas toujours ce qu'elle ressent, mais on comprend parce qu'elle nous raconte... Enfin, il nous raconte comment elle le vit, quoi.
Ouais, et puis... Moi, j'ai bien aimé aussi la distance dont tu parles. Je ne sais plus qui dit ça dans le chat. Pardon, il y a trop de fenêtres.
C'était Steve Marty. T'inquiète pas, panique pas.
Mais, moi, j'ai beaucoup aimé aussi qu'on me présente un personnage de mère qui est complètement différent de ce que moi, je connais. Parce que...
Daronne à Kalindi, pour celles et ceux qui ne savent pas, faut que tu dresses... un tout petit peu le personnage quand même.
Non mais c'est le point, la daronne à cale, désolée, j'ai vraiment l'impression de parler de ma mère en permanence.
Bah là on est, si on parle pas de nos daronnes pendant ce book club, vraiment à quoi bon quoi.
C'est clair. Non mais j'ai trouvé ça super intéressant, ce personnage hyper intérieur qui hyper je sais pas, vraiment aux antipodes de ouais. Donc moi, ma daronne, moi je suis fille unique aussi comme le personnage de Eleanor. Néanmoins, je me suis très peu reconnue dans ce personnage, mais donc du coup, je faisais un peu la comparaison avec ma mère et j'étais là, ouais, c'est vraiment aux antipodes. Moi, j'ai une mère qui est un brin, un ziflex. Mon mec l'appelle Mounich Dingo. Tu dis, ta mère, elle est trop dingo, tu vois, elle est complètement dingo tout le temps. Et
c'est
ma
vrai.
Mère est là, coucou, c'est la dingo.
Vous pouvez, sur Instagram, elle s'appelle Meilleure Mère, mais elle est en privé, et même moi, elle m'a pas accepté la mif, donc si elle vous accepte, ben moi, je suis vexée. Par contre, vous pouvez régulièrement la retrouver en story sur le compte de Kalindi, abonnez-vous, et c'est à chaque fois un plaisir. Tu ne sais jamais ce qui va se passer. Tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer dans une story s'il y a la maman de Kalindi dedans, c'est impossible.
Ouais, ma mère, c'est une femme très, très drôle, qui est passionnée de théâtre, de mini-trampoline. Elle fait du mini-trampoline tous les matins en regardant les séries les plus à la pointe du moment. L'autre jour, elle m'appelle, elle me dit, je voulais te dire, j'ai regardé Anatomie d'une chute. Oh, pff, alors, je ne comprends pas toute la
Elle a des
folie autour
opinions.
de ce film.
Je l'ai pas vu,
Après,
no
elle me donne
spoil.
son... Elle me dit, non, mais voilà, bon, écoute, moi, je me suis chier, c'est un film académique. Et puis, alors, tout le monde en fait des pataquès avec ce chien. Bon, bah, moi, je connais plein de chiens qui font semblant de mourir, voilà, comme ça.
Je connais plein de chiens. Je parle au lapin. Non, c'est pas elle qui parle au lapin, c'est ta tante chamane.
C'est sa meilleure amie, ma marraine.
Ah, ta marraine, pardon.
Ouais, elles sont meilleures amies, et d'ailleurs, elles font souvent des journées vin et fromage et piano où elles chantent du Morane en pleurant, en se prenant dans les bras avec plein d'invités saugrenus. À l'époque, Igor Grishka Bogdanov, bref, c'était vraiment une sacrée époque, ma jeunesse.
Vous voyez, ça fait. Franchement, ça a fait genre 5 ans qu'on se connaît, Cal, tu vois. Et on a bossé ensemble tous les jours pendant des années. On a été ensemble dans Laisse-moi kiffer, un podcast hebdomadaire qui consistait environ à raconter nos vies. Et je découvre encore des choses sur ta mère,
Ah, je pensais
dont
que tu le
elle
saurais.
faisait des soirées avec les Bogdanov, quoi.
Alors,
Quoi?
surtout avec un, je crois que c'était Grishka. Ouais, en fait, un jour, ma mère me dit, oui, on a une soirée chez Marie-Béatrice, une voisine. Et donc, j'arrive chez Marie-Béatrice. Et Marie-Béatrice était déguisée en bergère. Je sais plus pourquoi. Et il y avait Grishka qui était en train de jouer de la guitare pendant que sa zouze, une dénommée Charlotte, déclamait du Shakespeare. Et j'étais là, waouh, incroyable. Il m'avait fait un dessin de planète et tout. J'avais trouvé ça superbe. Bon, bref, du coup, ma
Tout
mère
est
est
vrai.
très. Tout est vrai. Ma mère est très expansive. C'est une mère très démonstrative, qui est énormément dans la communication de son amour et aussi dans la communication de son désamour, qui m'appelle toujours pour me crier dessus à 31 ans, pour, bah, soi-disant, je vole des affaires, tu vois, qui appartiennent à son mec. Bon, bref, je fais pas le
C'est
tableau.
vrai. Tout est vrai.
Mais voilà, j'ai une mère assez un peu excentrique,
Oui, et
vraiment une ancienne
chaleureuse. Pour le
comédienne,
coup, on
très
disait, Eleanor,
chaleureuse.
elle est froide. Ta mère, elle est
C'est ça.
très
Elle est très
aimante et
chaleureuse.
démonstrative.
Et elle est un peu gênante, quoi, parce que parfois, bah, moi, quand elle voit Alix, notre amie Alix, qui fait partie du podcast 4 quarts d'heure, j'en ai même pas parlé quand je me suis présentée, mais bon, un podcast que je
T'inquiète, j'ai une
co-anime.
commande dans le chat où c'est genre ta vie. Voilà, c'est bon. Du coup, j'ai une commande dans le chat quand tu fais point d'exclamation cal. Il y a marqué, le chat te
Incroyable!
dit, qui c'est? Retrouvez-la sur Instagram, écoutez-la dans 4 quarts d'heure, participez aux ateliers d'écriture.
Comment c'est possible? Incroyable. Et ouais, et donc parfois quand elle voit Alix, elle dit comment ça va ma chérie? Elle lui touche les cheveux et Alix, qui elle est quelqu'un qui ne n'aime pas trop être touchée et tout, ça la met. Et je dis à ma mère, mais arrête de toucher tout le monde et arrête d'appeler tout le monde ma chérie, puis arrête de m'appeler. Et elle me dit, oh, mais c'est comme ça, moi j'aime les gens. Donc c'est vraiment un peu l'inverse. C'est quelqu'un de très très voilà qui communique énormément son amour et qui est très démonstrative physiquement et dans ses paroles. Donc c'est vrai que c'était très intéressant de lire le personnage d'Eléanor, radicalement aux antipodes de ce que je connais, d'apprendre à la connaître, à la comprendre et à envisager ce qu'elle vit au quotidien, qui est pas la vie la plus simple. Vous
Non.
l'apprendrez dans la partie sans spoiler, j'imagine,
Avec
avec
spoiler
spoiler.
du coup. Est-ce que t'as parlé du livre à ta mère, toi? Parce que du coup, moi, je l'ai conseillé à la
Oui.
mienne, mais en lui disant warning deux trois thématiques, parce qu'en plus, on a eu des bon, comme on l'a dit, un drame à un moment du bouquin, et on a eu un drame similaire dans la famille récemment. Donc voilà, je lui ai mis des trigger warnings pour le coup, parce que je voulais pas lui ruiner le moral. Et du coup, je pense qu'elle l'a pas encore lu, mais elle m'a dit, je le note, je m'y mettrai, blablabla, tu me manques ma fille et tout. Est-ce que toi, t'en as parlé à ta daronne?
Ouais, j'en ai parlé à ma mère et c'est ma mère qui a le bouquin actuellement. Je lui ai filé en lui disant lis-le. Et évidemment, comme tout ce que je lui dis de lire, elle le lira pas avant 6 ans.
Ou alors elle le lira et elle te dira, c'est surcoté, moi je connais plein de chiens, ça va.
sans doute, ouais, c'est terrible. Pour le coup, moi, j'ai une mère qui était, enfin, qui donne son opinion sur absolument tout, et notamment, elle a donné son opinion sur mon premier roman, sur le 2 mai, ce
Oui,
qui m'a
les jours mauves aux
complètement
éditions
bloquée dans mon
Latès.
écriture. Ouais, ce qui m'a complètement bloquée dans mon écriture, et donc je sais aussi les écueils enfin, les écueils de avoir une mère ultra, comme ça, qui donne tout le
Oui,
temps
y
son
a,
avis.
bah, comme tout le monde, il y a des qualités et des défauts, quoi.
C'est
Il y a
ça.
des très bons côtés, il y
Mais
a des côtés un peu plus. Hein, des fois, c'est bien d'avoir des opinions, mais des fois moins. Ce serait bien, peut-être aussi. Voilà, on ne sait pas.
c'est bien de les avoir, c'est bien de les garder pour soi aussi quand on n'a pas demandé à l'idée.
Kalindi anime un podcast intitulé Le seul avis qui compte. Voilà, je vous pose ça là.
On n'est pas un paradoxe près de ce côté-là de l'écran. Mais ouais, en tout cas, ouais, je l'ai filé à ma mère. Donc la tienne va sans doute le lire.
Je t'en hâte. Et je l'ai conseillé aussi à ma grande sœur qui est elle-même maman de mon neveu du coup. Et mais pareil en lui faisant des warnings de bon ça, je pense. Enfin c'était dur pour moi émotionnellement et je pense que pour une mère c'est vraiment dur et tout. Donc pareil, je lui ai balisé un petit peu et elle m'a dit oula, ouf, pas tout de suite. Hein. Donc à voir.
Ouais.
On va passer, je pense, à la partie avec spoiler après une mini pause. Mais avant ça, du coup, okay. Je voulais te demander, toi qui a plus l'habitude du genre drame familial que moi. Comment tu le classerais Où vivaient les gens heureux, toi qui as lu pas mal de bouquins de ce style? Est-ce que pour toi il est vraiment genre... Parce que moi, oui, j'ai été prise de court et j'ai sangloté comme jamais, mais comme on l'a dit, c'est genre la première fois depuis un an et demi que je lis pas, que je lis un livre où il y a ni dragon ni vaisseau spatial. Donc bon, voilà, on va revenir un petit peu à la réalité. Est-ce que si tu devais lui donner une note par exemple ou un nombre d'étoiles, tu dirais quoi?
Bah, enfin, vraiment, pour moi, ça a été... Et c'est pas parce que j'ai pas pleuré ou que j'ai éprouvé un peu de froideur à certains endroits du livre que j'ai pas aimé. Même, j'ai adoré. C'est un des romans qui m'a le plus marqué de ma dernière année de lecture. Moi, je fais des grosses... Il y a des moments où je lis 12 bouquins par mois et des moments où je lis plus pendant 3 mois. Mais là, je sortais d'une grosse époque, en plus, polar de merde. Enfin, pas polar de merde pour critiquer la qualité de ces polars, mais polar hardcore. Tu sors de là... C'est Ravajax, quoi.
Ouais.
Et donc, je sortais de ça. Et là, j'ai repris un petit peu ma passion pour les drames intimes. Et franchement, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu cette dernière année, voire cette dernière année et demie. Donc moi, une note sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais facilement 7,5, 8, quoi.
Ouais, pour moi, c'est un 8.
Bah ouais, parce qu'en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est jamais... comment dire? Rien n'est jamais surexpliqué. Tout est toujours suggéré par des images, des évocations, de souvenirs, etc. Donc, tu as vraiment l'impression de pénétrer dans la vie d'Eleanor. Et de, enfin, moi, à un moment donné, comme je l'ai lu sur la longueur, j'avais l'impression de vivre avec cette personne, de vivre avec ce chien de Cam que je hais plus que tout, je le hais. Et donc, non, sur moi, ça a vraiment ultra marché. Donc, toi, tu lui mettrais 8 aussi.
Ouais, clairement, j'ai moins d'expérience que toi dans le style, mais c'est un... Je pense que c'est un très beau livre, un livre très vrai. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais il a eu énormément de succès. Joyce Maynard, c'est une autrice, confirmée. Il a eu le prix du grand roman américain. Enfin, voilà, et je trouve que c'est vraiment chouette. En fait, souvent, quand on parle du grand roman français, du grand roman machin, c'est toujours une histoire de gars, tu vois. C'est toujours les gars qui racontent leur vie, là, fucking Jack Kerouac et tout, Michel Houellebecq, mon cul. Et pardon pour la vulgarité. Et j'étais vraiment contente que, en fait, juste la vie d'une meuf, ça soit le grand roman, tu vois. Genre, c'est, je sais pas, il y a un truc qui m'émeut aussi dans... J'ai sûrement pas assez été confrontée à des livres de femmes qui parlent de femmes et qui sont respectées pour ce qu'ils sont. Et j'ai probablement pas été très curieuse non plus là-dessus parce que je sais que le patriarcat fait qu'ils sont moins recommandés ces livres-là. Mais clairement, Joyce Maynard, comme on vient de le dire, c'est pas du tout une débutante et j'aurais pu être au courant qu'elle existe. Mais ça, voilà, ça m'a inspirée et touchée à tellement plus de niveaux que juste... C'est bien écrit et c'est une bonne histoire. C'est bien écrit et c'est une bonne histoire. Mais ça a vraiment réveillé beaucoup de choses chez moi. Et ça m'a donné envie d'écrire aussi. Ce qui est cool, tu vois.
Ah.
C'est toujours pour moi un bon signe quand la plume... Et tu vois, le problème à trois corps, pas du tout. La plume m'avait pas du tout transcendé comme ça. En dehors de... Il parle d'onde sinusoïdale et je sais pas vraiment ce que c'est. C'était pas mon style d'écriture. Alors que quand je trouve un auteur ou une autrice qui a un style qui vibe avec moi... Et là, je pense... Voilà, le côté... des flashs de souvenirs et tout, ça m'a vraiment parlé. Ça m'a donné envie d'écrire et ça m'a aussi dit, bah, au pire, si t'écris même juste ta vie, tu vois, bah, c'est intéressant, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs, des enjeux délirants pour que juste une vie, ça soit intéressant.
Bien sûr. Mais c'est très compliqué, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce truc de partir de soi pour fabriquer de la matière fictionnelle, c'est extrêmement compliqué. On se dit, mais à quel moment est-ce que les petites choses que j'ai à dire sur ma petite existence de seulement une trentaine d'années, ça va intéresser les autres? Mais c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est ce qu'on répète et ce que je martèle en atelier, c'est que c'est par l'intime qu'on raconte l'universel. Et il y a beaucoup de chances que des choses par lesquelles vous êtes passés, d'autres gens sont passés par les mêmes choses, ça va les toucher également. Mais de toute façon, je trouve que c'est un exercice très compliqué, l'autofiction. Bah, je peux en parler parce que moi, c'est ce que j'ai fait dans mon premier roman. Et c'est drôle parce que...
T'as pas pitché du tout Les Jours Mauves, et je sais pas si tu veux le faire, donc je te laisse, mais c'est vrai qu'on tourne autour du fait que toi aussi, ton livre est plutôt du coup un drame familial, une histoire intime. Je te laisse le pitcher autant ou aussi peu que tu veux, parce que c'est ton roman, et ton histoire aussi.
C'est l'histoire d'une nana qui s'appelle Indira, qui, alors qu'elle va avoir 30 ans, voit son père mourir d'un cancer. Et le roman commence par l'incinération de son père. Et pendant cette incinération, elle va énormément picoler et prendre énormément de cachetons. Et donc, elle est un peu comme ça. Et,
Les cachetons en fait, plus la picole, ouais, t'es un peu dans le flou, ouais.
Ouais, voilà. Et en fait, elle apprend par un des potes de son père qu'il voulait être envoyé en orbite sur Mars. Et elle se dit, putain, mais attends, mais quoi? Mais mon père, il savait même pas qui était Thomas Pesquet. Enfin, l'espace, on battait les steaks. Donc quoi? Qu'est-ce que quoi? Et en fait, elle se rappelle que Mars, c'est le nom d'un PMU en haut d'une montagne où son père allait s'arsouiller l'été après avoir grimpé cette montagne à vélo parce que son père était un fiefé cycliste. Et du coup, elle propose aux amis de son père un road trip de Paris jusqu'à Super Bannière de Luchon pour aller boire une dernière bière en hommage à son père avec tous ses potes. Et en fait, l'essentiel du roman se déroule dans cet autocar et va confronter les visions des personnes qui sont dans cet autocar sur qui était vraiment son père, et elle va découvrir que son père n'était pas vraiment le gars qu'elle imaginait et qu'elle connaissait. Et en fait, je trouve ça très compliqué. Moi, personnellement, si je peux raconter ma life 2 secondes et demie, je suis très angoissée par la sortie de ce premier roman, pour vous faire une confidence. Et j'en parlais tout à l'heure avec ma psy, vraiment il y a quelques heures, là, en visio. Et ce que je lui disais, c'est terrible. Je me suis servie de plein de choses, de personnages qui ont traversé ma vie. Je me suis servie de moi-même pour raconter cette histoire. Mais les 3/4 de cette histoire ne sont que pure fiction. Et je lui disais, j'ai l'impression de trahir la mémoire de mon père. J'ai l'impression de l'avoir trahi en réécrivant son histoire, en me réappropriant son histoire, en la transformant de toute pièce. Je disais, mon Dieu, mais mon père serait mort 8 fois. S'il avait su que j'avais écrit ça sur lui. Et elle m'a dit, bon, votre père est mort de toute façon. Donc, a priori, il ne l'aura pas.
C'est vrai. Je pense que c'est une bonne réponse.
Et en fait...
Y a un moment, c'est toujours compliqué à quel moment raconter son histoire, c'est raconter celle des autres, tu vois, aussi, forcément. Ouais. Et raconter son intimité, c'est raconter celle des autres. Et quand, tu vois, je pense que, oui, ton père aurait pas fait un roman intime sur sa propre vie, c'était peut-être plutôt un homme taiseux. Mais en fait, il a fait une fille qui a envie de raconter cette histoire. Et je pense qu'en vrai... il serait peut-être dans la compréhension, mais aussi fier de toi, je pense.
Ouais, sans doute, sans doute. Et puis, en fait, c'est pas tant son histoire. Il y a une partie de son histoire, mais tout le reste est inventé, je tiens à le dire. Et
en fait, inspiré de faits réels, finalement.
Inspiré de, ouais. Et en fait, je trouve ça, finalement, enfin, moi, personnellement, ce roman m'a aidé à faire le deuil de mon père, parce que réécrire mon père, ça a été me réconcilier avec lui, et ça a été... travailler une version de lui qui n'existait pas. Et donc, finalement, aujourd'hui, mon père préféré, c'est mon père de mon roman. Donc, c'est très
incroyable.
Compliqué, l'autofiction. Mais
on a Amilaya dans le chat qui rappelle un truc dont on n'a pas parlé, c'est que tu fais des épisodes de podcast avec Fabrice Florent pour parler de ton premier roman, de la sortie de ton premier roman. C'est dans Histoire de succès, le podcast de Fabrice Florent sur... les gens qui ont du succès et qu'Alindy en a. Et y a plusieurs épisodes. D'habitude, c'est un épisode, une personne en interview. Là, il y a plusieurs épisodes avec toi pour parler de l'avant, pendant, après sortie de ce premier roman. Donc, si jamais le sujet vous intéresse, abonnez-vous. Je vous ai mis le lien dans le chat. Et en règle générale, qu'Alindy et Fab dans un micro, c'est toujours plaisir, quoi. On est au top.
Ah oui, c'est bon, Fab. Love him. Il aurait pu être là ce soir d'ailleurs à regarder ce live. Et non, finalement, Fabrice, pas très
bien. Il a pas lu le livre, mais je lui ai conseillé. Je lui ai conseillé de fou. Hein. Mais aussi avec le même petit attention pour les parents. Je pense que c'est doublement compliqué pour les gens qui ont vraiment des enfants. Dans le chat, on a Virginie qui dit « Je conseille aussi Betty de Tiffany McDaniel, un autre grand américain d'une jeune autrice qui raconte l'histoire de sa maman magnifique. » Et ça me fait rire parce que je pense que c'est le même Betty. Dans les ateliers d'écriture, un des outils dont tu te sers pour apprendre tes techniques d'écriture de fiction aux gens, c'est de lire le roman, enfin une partie du roman Betty, et de l'analyser et de réfléchir à ce qui marche. Donc écoute, tout se connecte.
Quel formidable livre.
Je ne l'ai pas lu, mais du coup, on le fera dans
le club
carrément. Mais carrément.
C'est un formidable livre.
Vas-y, tu vas me faire lire que des livres qui me font chialer et appeler ma mère, quoi. Plaisir. Mais non, mais je prends. J'ai du retard moi, clairement sur la thématique. Donc, toi, tu vas apprendre un truc de physique
le
quantique différent.
Le cosmologique, ça va être chambé.
Eh, bravo, t'as toujours la... J'en ai parlé ce week-end avec ma grande sœur qui, en plus d'être maman du seul enfant que je côtoie, est physicienne des particules et astrophysicienne. Donc, elle comprend les trucs, hein. Et elle a lu Le problème à trois corps et on parlait de fond diffus cosmologique et tout. Et j'étais là, heureusement que je l'ai pour m'expliquer parce que vraiment, moi, j'avais pas tout compris, quoi.
La vie de ta famille est tellement classe, genre. Incroyable.
On n'avait pas les Bogdanov. Par contre, j'ai une sœur qui... En fait... Le truc, c'est que dans le problème à trois corps, notamment dans la série, genre dans l'épisode 1, il y a une scène dans un accélérateur de particules. Ma sœur, elle y a travaillé pour de vrai. Genre, elle a fait partie des gens qui ont prouvé l'existence du boson de Higgs, qui est une micro-particule, je sais pas quoi. Enfin, en vrai, ça pèse de fou. Et j'ai du mal à expliquer ce qu'elle fait parce que je comprends pas tout.
Tu devrais trop l'inviter sur ta chaîne Twitch et parler de son métier.
Ben, je lui ai proposé qu'on parle ensemble du problème à trois corps, mais ayant un enfant, elle a pas que ça à foutre de regarder 8 heures de série télé en une semaine, bizarrement. Mais oui, c'est prévu de faire des trucs avec elle, parce que je l'aime trop, et je suis trop fière d'elle. Je te propose qu'on fasse une petite pause de 5 minutes afin d'aller fumer des clopes, car nous sommes des fumeuses de clopes. Oui. Sinon, moi, je m'en vais, toi, tu parles au jour, y a pas de souci.
Et non, je vais préférer l'option cigarette également.
Ne fumez pas, c'est très con. Et on revient du coup dans 5 minutes pour plonger en profondeur dans Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard. On vous refera une petite alerte, mais ça va être le moment où on va spoiler, dire les bails et débattre de ce bouquin qui a créé beaucoup d'émotions finalement chez tout le monde. All right.
Tout de suite.
Je mets la pause. À tout de suite. Bisous, Cal.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code program.
And we are so back. Oh là là, ça m'étonne à chaque fois que ça marche. À chaque fois que je vois ta tête s'afficher sur l'écran, je suis là, mais c'est incroyable. Ah, on a eu un petit sondage dans le chat. Votre avis sur le livre, je l'ai déchiré de rage, ou quel livre ? Pour l'instant, le sondage est à ex aequo. J'espère que vous avez lu le livre quand même. Et je te le dis avant d'oublier, il y a Virginie qui demande, est-ce qu'on peut espérer en fin de live une liste de petites recos de romans, de récits familiaux intimes, toi qui en as lu plus que moi ? Eh bien, on peut. Ouais. Hein, finalement, moi j'en ai moins à vous recommander, mais j'en ai quand même un ou deux, voilà, auxquels j'ai pensé en lisant Où vivaient les gens heureux. On est maintenant dans la partie avec spoiler de ce live, on va donc vous révéler tout ce qui se passe dans Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard. Pour rappel, on l'a adoré et on vous le conseille. Donc si vous n'aimez pas les spoilers, c'est le moment de partir, sinon... Bienvenue, on a tous et toutes souffert ensemble et on va en parler.
Oui. Ouais.
Hop là. Et voilà. Et voilà.
C'est mieux là.
On peut faire, voilà, est-ce qu'on a tous et toutes commencé à sangloter au même moment pour les gens qui ont pleuré ? Moi, j'ai tenu jusqu'à l'accident, puisque donc le grand drame qui se passe dans Où vivaient les gens heureux, c'est que Toby, le seul fils et le plus jeune enfant de Eleanor et Cam, manque de se noyer quand il est enfant dans un étang qu'ils ont construit dans leur jardin parce que Cam ne l'a pas surveillé, il s'est endormi au lieu de le surveiller. Et il le réanime, mais il a été en état de mort cérébrale pendant plusieurs minutes. Et du coup, il vivra le reste de sa vie avec un handicap plus ou moins lourd sur lequel il va y avoir beaucoup de rééducation à faire. Et c'est d'autant plus déchirant que c'est à la fois le seul fils de la famille et un enfant qui est toujours décrit comme spécial, quasiment magique, enfin qui vraiment ça a l'air d'être un être surprenant et on veut tous et toutes savoir qu'est-ce qu'il va devenir quand il sera grand et qu'est-ce que ce petit gamin lutin, c'est quasiment un farfadé quoi, va
clairement
devenir.
Le petit préféré.
C'est aussi le petit préféré. Et c'est d'autant plus terrible du coup que, et je m'y attendais pas du tout à cet événement. Je pensais vraiment que on allait rester à ce niveau de gravité qui est quand même déjà pas mal, parce que aussi j'avoue que en fait quand j'ai, bon j'y viendrai plus tard, il se passe des trucs graves dans le bouquin. Il y a des viols, enfin il y a un viol, enfin, il y a plusieurs viols au moins. Il y a du coup un des enfants de d'Eleanor qui transitionne de genre, la personne qu'elle pensait être sa fille est en réalité son fils, et c'est quelque chose avec lequel elle n'a pas toujours des facilités à réagir, d'autant plus, rappelons que ça commence dans les années 70, donc on n'est pas avec des gens qui ont grandi dans une grande sensibilisation à ces thématiques. Mais voilà, je pensais qu'on en resterait à ce niveau de drame, de ok, cette famille, genre tout le monde globalement va bien en termes de santé physique, mais les problèmes, c'est la charge mentale, les différences de style entre les deux parents, parce qu'il y a aussi ça, et puis les problématiques personnelles de chaque enfant. Et,
puis aussi, il y a quand même aussi l'histoire de sa meilleure amie à Eleanor.
Oui, qui est une femme victime de violence conjugale.
D'un, ouais. Et d'un féminicide, et d'un si je me rappelle bien.
Mais ouais, trop horrible.
Oui. Voilà, qui est traité d'ailleurs assez... ça arrive, et puis on n'en parle plus. Mais... qui est aussi un moment particulièrement douloureux du bouquin.
Mais qui, je dirais, passe plus vite. Au final, Eleanor n'a pas énormément de réactions à ça, même si elle la réévoque régulièrement. Et surtout, ça la motive à garder contact avec la fille de son amie qui a été assassinée par du coup son ex-mari. Parce qu'elle sait ce que c'est d'être une adolescente qui n'a plus de parents, puisqu'elle-même, ses parents, elle les a perdus jeunes. Mais on n'a pas des pages et des pages de tristesse d'avoir perdu son ami, alors que c'est absolument déchirant quand tout ce qui suit l'accident de Toby. Sur le chat, il y a Amilaya qui dit le moment où il reprend connaissance mais qu'il ne réagit plus trop. Il y a Terreur Nocturne qui dit la comparaison à l'oiseau qui se cogne contre la vitre et tout sonner. Enfin, vraiment, c'est décrit. Il y a mille façons de parler d'un drame aussi lourd. Mais la façon dont c'est écrit en plus, moi, ça m'a mise dans des affres de détresse. Et je pense que le fait d'avoir... Donc j'ai un neveu depuis bientôt 5 ans, que j'aime énormément, le fils de ma grande sœur, c'est mon premier neveu, enfin la première fois que je suis tata, et aussi le premier petit enfant que je côtoie depuis longtemps, et il a... Enfin, je pensais beaucoup à lui en lisant les trucs de Toby et tout, et en fait on était en vacances en famille cet été avec du coup ma famille, dont mon neveu, et on était à Center Parcs, un endroit très kid-friendly, ça va, c'est fait pour les familles, les enfants et tout, mais mon neveu étant une petite boule d'énergie, à un moment il a failli, tu vois, genre il courait sans regarder où il allait, il a failli se faire rouler dessus par un adulte en vélo, genre vraiment, il a failli se prendre le gars en VTT, et c'était pas de la faute du gars, vraiment, il s'est jeté sans regarder, et heureusement ma sœur, sa mère l'a attrapé, et l'a sorti du chemin, et... Elle a eu peur, mais elle lui a pas hurlé dessus ni rien, juste elle lui a dit non, il faut vraiment regarde, c'est dangereux, le vélo il t'aurait fait mal et tout. Et moi j'ai eu un flash à ce moment-là de j'ai vu l'autre dimension, j'ai vu la dimension parallèle, j'étais là mais attends, mais imagine il se prend le vélo, il est tout petit, il est tellement fragile. Enfin imagine, et vraiment j'étais là mais ce serait tellement de douleur, et du coup j'ai pensé à ça, même si c'est un accident moins grave qu'une noyade, en lisant ce chapitre. Et je pense que le fait d'avoir un petit garçon que j'aime énormément dans mon entourage, ça a rendu ça encore plus dur à lire, quoi. Et après ça c'est juste plus arrêté, parce que les conséquences de, enfin c'est ce drame qui cristallise tout le mal-être qu'il y avait avant dans cette famille et dans cette héroïne, quoi.
Ouais. Et c'est marrant parce que c'est marrant non, mais l'autre jour quand je regardais l'interview de Joyce Maynard en français, rappelons-le, qui parle français.
Ça va, Joyce, ça va.
Ça va, Joyce, on peut pas avoir toutes les qualités, elle est trop chiante. Elle dit que ce livre, et ça m'a étonnée parce que moi je décris vraiment ce bouquin autour de moi comme c'est vraiment le livre le plus puissant que j'ai lu sur la charge mentale, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai
sorti
de ce bouquin, tu vois. Et elle dit,
son
c'est
mec
un livre sur le pardon.
Rien.
Il ne fait rien, c'est infernal. Et elle dit, c'est vraiment un livre sur le pardon les décennies que ça va prendre pour mon héroïne Eleanor de pardonner à Cam de ne pas avoir surveillé Toby et que il en ait résulté ce drame, quoi.
Et je sais que c'est malheureusement une statistique réelle dans les couples de parents qui perdent un enfant ou dont l'enfant a un accident qui en plus, enfin après les accidents ça arrive toujours, tu vois, mais qui, ou en plus peut-être l'un des parents a manqué à sa responsabilité. C'est très rare que les couples survivent à ça, et ça se comprend, quoi, parce que du coup quand elle voit son mari, elle voit l'homme qui a mis en danger son enfant et qui, enfin tu vois, elle voit plus l'homme qu'elle aime, quoi.
Ouais, c'est ce que raconte très bien le livre, c'est toute la suite de elle ne parvient pas à le pardonner, et c'est ce qui va, bon, en soi, le couple va mal déjà depuis avant, oui. Mais c'est ce qui va précipiter.
Parce qu'il branle rien, monsieur, on va en parler.
Pas grand chose, et puis que c'est terrible, parce que non seulement il branle rien, mais en plus, il a cette figure du héros pour les enfants, qui considèrent leur père comme ce gars fun avec qui ils peuvent s'amuser et tout. Et
ah ouais, non, mais le fun dad et la strict mom, c'est,
ah ouais, c'est insupportable.
Très, très bien mis en scène, hein.
Et alors, bon, moi, j'ai lu depuis un peu plus longtemps que vous, ça doit faire 2 mois maintenant, mais il y a cette scène aussi que j'ai trouvée forte. Je sais plus si ça, je crois que ça se passe à Noël, parce qu'elle fait les cadeaux des enfants, ou genre, elle vient de tout emballer, la bûche, voilà, c'est ça.
Elle a fait une bûche de fou, genre, avec un décor et tout, elle a
voilà, c'est ça. Et lui, il veut aller skier, je crois.
Ouais.
Alors qu'elle a clairement besoin qu'il branle quelque chose une fois dans sa life, quoi, qu'il l'aide à faire le moindre truc, genre s'occuper des enfants, par exemple, ou whatever. Mm-hmm. Et juste lui, il veut aller skier, je crois, ou en tout cas,
il va s'amuser.
Ouais, voilà, c'est ça, il se casse et il va skier. Et bah là, pour une fois, elle a une espèce de réaction physique où elle va balancer la bûche à la poubelle et, ou par terre, je sais plus.
Mais elle la balance à la poubelle et après elle retourne tout l'appart, enfin toute la maison, elle récupère tous les papiers cadeaux. C'est un des moments Crazy Land où quand elle se retrouve dans. C'est le nom qu'elle donnait au pays où ses parents, à elle, habitaient quand ils étaient ivres, parce que bah, c'est pour ça qu'elle a perdu ses parents, c'est parce que tous les deux étaient alcooliques et se sont crashés en voiture en étant, parce qu'ils étaient ivres. Et quand ses parents étaient trop bourrés, elle appelait ça Crazy Land dans sa tête quand elle était petite, et une fois adulte, c'est elle qui va à Crazy Land quand elle sent qu'elle va snap, que ça y est, ça monte et c'est plus du tout rationnel. Et c'est du coup la dernière partie du bouquin, c'est beaucoup elle qui apprend à ne plus en arriver là, quoi. Ouais. Non, je vais... Il y a d'autres façons de communiquer les choses, mais honnêtement, on la blâme pas non plus, quoi. Enfin, clairement,
bah ouais,
le gars, le gars, il est vraiment juste en mode, bah, je sais pas, c'est le matin de Noël, j'ai le droit de faire un truc que j'aime bien, et elle est un peu. Tu fais tout le temps.
C'est clairement son quatrième enfant, en fait. Ouais, c'est clairement son quatrième enfant. Donc, mais il y a cette scène-là, et puis je sais plus, il y en a quelques-unes où elle manifeste, j'ai envie de dire un peu enfin, et je sais plus qui le disait dans le chat, c'est terrible parce que bah. Parfois, on a envie qu'elle se rebelle contre cet ordre établi où elle est clairement celle qui fait tout et son mari qui passe juste pour le mec le plus fun, alors qu'il fait rien pour nourrir ses enfants, pour s'occuper d'eux. Et c'est vrai que ces petits moments, moi, m'ont satisfaite en tant que lectrice, parce que je me dis enfin, il y a une manifestation,
il y a quelque chose qui s'exprime
de l'injustice auquel elle doit survivre au quotidien, quoi. Donc, c'est un bouquin qui révolte vachement. Hein. Je trouve que moi, j'ai passé plus de temps à être en colère qu'à être effondrée, tu vois. Et j'avais envie... Tu vois, c'est terrible, mais je le lisais à côté de mon mec qui lisait Sauf Foot.
T'avais envie de l'embrouiller un peu. Tu te rends compte de ce qu'elles vivent, les femmes, à cause des gens comme toi, là? Ça lit Sauf Foot, là. Bah, va faire du ski, là, connard, va.
C'était terrible, ça m'a rendu un peu nulle. C'était là, putain, j'ai vraiment envie de l'embrouiller pour toutes les fois où j'ai demandé de faire des trucs, il les a pas fait, tu vois.
Sachant que ni toi ni moi, on a des mecs à ce niveau, bien sûr, de battage de steak que Cam, God bless, et en soi, on n'a pas à se plaindre. Mais oui, ça réveille un truc de femmes et de filles aussi. Alors, pour le coup, toi, tes parents étaient séparés avant le décès de ton père. Moi, mes parents sont toujours ensemble, et j'ai grandi avec, du coup, mes deux parents, et même si mon père, c'est pas Cam non plus, bah, je pense que oui, il y a des inégalités de genre dans le couple de mes parents, hein, c'est aussi générationnel. Et ça m'a réveillée, enfin, tu vois, la daronne qui veut que tout soit parfait, qui fait le ménage dans toute la maison, et en fait ça fait chier tout le monde. Et j'étais là, mais c'est moi quand j'ai 12 ans et que ma daronne elle me dit on va passer l'aspirateur, et je suis là, hein, trop chiant, au moins papa il est fun. Vraiment, je suis là.
Ouais, c'est terrible.
C'est trop. Donc, ouais,
c'est, la colère, c'est une vraie prise de conscience, ce bouquin, hein, de tout ce qu'on a fait subir aussi à nos mères. Mais moi, c'est un peu pareil parce que... Donc moi, mes parents se sont séparés, mais j'avais déjà 20 ans, j'étais vraiment adulte.
Ah yes,
mais
je pensais que t'étais ado quand ils s'étaient séparés.
Non, 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 je venais d'avoir... C'était l'année de mes 20 ans. Et en fait, mon père, à moi, n'était pas fun. Je vais pas dire vraiment, c'était le fun dad. Mais il aimait beaucoup faire du vélo, voilà. Mais surtout, en fait, mon père n'a jamais participé aux frais de mes études, n'a jamais donné un centime pour mes études, a très peu participé à payer les loyers, payer les appartements, etc. Ma mère a toujours pris en charge tout ce qui était financier. Et puis c'est ma mère qui s'occupait de moi globalement pour absolument tous les aspects de mon existence et qui assurait ma survie en fait. Et donc ouais, ça, pareil, ça fait écho un petit peu. Et j'étais là, pareil, toutes ces fois où ma mère venait péter des plombs dans ma chambre, enfin péter des plombs. Tu vois, elle était à Crazyland, alors qu'en fait, elle en avait ras le cul parce que ça, tu vois. Alors que juste le vase est plein parce qu'en fait, elle passe sa vie à vous demander des choses que personne ne fait.
Son mari qui est le seul autre adulte de la maison finalement, parce que bah les enfants au final c'est pas de leur faute, tu vois, ils apprennent, n'est pas dans sa team quoi. C'est ça, c'est ils forment une équipe sur plein de choses, sur ce projet de maison, sur ce projet de famille, parce qu'en soi ils sont très heureux de les avoir ces enfants et ils voulaient tous les deux fonder une famille, même si ils se sont retrouvés très vite ensemble dans le bouquin. Mais il est incapable d'être dans son équipe à elle sur juste dans la vie, il y a des trucs chiants qu'il faut faire et c'est moins chiant si on les fait à deux. Et en plus, si on les fait pas à deux, il y a un moment où je vais vraiment me sentir dévalorisée. Lui, il est vraiment dans... Mais on peut juste faire ce qu'on préfère, non? Et comme ça, on apprend à nos enfants à faire juste ce qu'ils kiffent. Elle est là. Mais qui c'est qui paye le loyer, en fait, connard? C'est moi.
Ouais.
La fatigue. Ah ouais. Il y a Amilaya dans le chat qui dit « Et par contre, personne autour d'elle qui se pose la question de pourquoi elle snap. Elle est juste perçue comme une folle et personne ne lui tend la main non plus. » C'est peut-être l'occasion de parler un peu des personnages qui entourent Eleanor et notamment des autres femmes de la communauté où elle vit, parce que c'est quand même un petit bled, mais il y a notamment son mari intègre une équipe de... Alors c'est du softball, c'est pas du baseball. Je crois que c'est le baseball, mais où les balles, elles sont un peu plates comme du cricket. Je vais pas googler, j'avoue, je m'en fous du sport. Et du coup, bah, c'est les hommes de la ville qui sont dans l'équipe et les femmes, ça leur fait le moment de socialisation. Et ces femmes qui sont toutes mères ou quasiment toutes et qui, du coup, parlent beaucoup de leurs problématiques de couple. Est-ce que on baise encore ou pas? Est-ce que et il y a ces histoires de charge mentale aussi qui reviennent. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression à la lecture, et c'est probablement aussi réel dans cette dans d'autres générations, même s'il y avait déjà des discours féministes, qu'il y a un côté fatalité, tu vois. Genre oui, on est toutes en train de faire les trucs. Genre oui, on a toutes des mecs qui se font griller des steaks pendant qu'on a couché, qui lavent pas leur slip et qui peut-être nous trompent. Mais il y a personne qui lui dit c'est possible de faire autrement, ton mari il déconne, viens, on va le secouer, tu vois, ou même tu devrais le divorcer et tout. Elle est très seule avec ce sentiment d'inégalité, quoi.
Elle n'est pas écoutée, à part par un personnage dont on n'a pas vraiment parlé pour l'instant, qui est le personnage de son amant, ce type qu'elle prend, enfin
le jeune gars, c'est Timmy Pouliot,
le jeune gars, ouais, voilà. Ce gars qu'elle rencontre quand il est encore tout jeune et qui tombe assez vite amoureux d'elle. Elle est plus âgée et tout, et puis en fait quand elle en peut plus, elle va chez lui et puis elle enlève ses chaussures, elle lui fait couler un bain, elle se met dans son bain et elle lui parle, il lui fait un massage et elle lui parle de sa journée, de ses enfants, de sa fatigue, et ils font l'amour et tout. Et je trouve que c'est vraiment... j'ai beaucoup aimé le traitement de leur relation, parce qu'à aucun moment on croit que ça va aboutir sur autre chose que ce que ça peut être.
Mais parce qu'elle a décidé que ça n'aboutirait à rien. Elle dit à un moment qu'elle s'est rendue compte qu'elle l'aimait, qu'elle l'avait aimé, qu'ils s'étaient aimés mutuellement après que tout ça soit fini et qu'elle ait fini par ne plus aller le voir. Et il finit avec la babysitter, on est d'accord?
Ouais, ouais,
en
c'est
plus,
ça.
Et donc la boucle est bouclée et il meurt dans un accident de moto. Donc elle lui offre, il lui offre des moments de liberté, mais si. Lui, il l'aime vraiment, et je pense que si elle n'avait pas été aussi fermée à « en fait, on a des vies trop différentes, t'es trop jeune, on va jamais être ensemble », ça aurait pu être un couple pas inintéressant, tout comme Cam et Coco, la babysitter, ont quand même vécu des vraies années de couple ensemble, on finit par faire un enfant, et c'était pas juste... Oui, mais tu vois, c'était pas juste « ouais, j'ai sauté la babysitter, mais je m'en fous, quoi ». Bah, Eleanor, elle aurait pu reconstruire un truc, mais je pense que... pour mille raisons, et notamment la vulnérabilité, c'est compliqué, elle n'était pas prête du tout. Enfin, elle est dans un niveau de traumatisme à ce moment-là, parce qu'elle vit toute seule dans son appart à la ville, et que ses enfants, ils ne veulent pas la voir, et que juste, elle ne peut même pas leur dire ce qui s'est vraiment passé, et du coup, ils pensent que c'est elle la méchante et tout, et j'étais là, mais alors moi, mais comment j'aurais lancé mon gars sous les roues du bus?
Moi aussi, minute 1. Vraiment, votre père est un trou de balle, voici la preuve par 12.
Mais c'est terrible, il y a ce
moment de Crazyland aussi que moi j'aime beaucoup, où elle retourne dans la ferme. En plus c'est terrible parce que je veux dire, la ferme c'est son rêve absolu, elle rêvait d'acheter une maison, rêvait d'acheter une ferme et d'y faire famille encore une fois, et
elle est tombée amoureuse. Mais oui, elle a même plus le droit d'y aller.
Et elle se fait déposséder de cet endroit où son ancien mari continue à vivre avec la babysitter qu'elle a choyée elle-même, qu'elle a considérée
qu'elle
comme
a
un membre de sa famille.
Ado, gamine. C'est... Alors, il y a Ezoc dans le chat qui dit le grooming, c'est juste pas bien. Et le grooming, donc, c'est quand une personne adulte, généralement un homme, comment dire ça, modèle une personne mineure, généralement une femme, sans avoir de relation sexuelle ou intime avec elle pendant qu'elle est mineure, mais la modèle un peu pour que, au moment où cette personne a 18 ans et que c'est légal, elle soit hyper attachée de façon peut-être malsaine et du coup couche avec lui, etc. Et c'est vrai que même si Cam, on comprend plein de raisons pour lesquelles Eleanor l'a épousée et tout, il y a quand même un truc de mec, tu sautes une meuf que t'as connue gamine, c'est trop chelou, tu vois.
Ouais, c'est atroce. Et il y a ce moment que moi j'aime beaucoup, qui est encore une petite manifestation de à quel point elle a passé des années à encaisser injustice sur injustice, donc elle se fait déposséder de cette maison qui représente son rêve absolu. Et c'est quelques années de paix. Elle se fait déposséder de tout ça et un jour elle retourne pour aller chercher, je crois, les livres de ses enfants. Et oui. Et elle est confrontée à Coco, voilà. Et elle est confrontée à cette Coco qui tient désormais la maison et qui lui dit non, mais je suis pas sûre que Cam, en fait, il aurait dit OK pour que tu viennes prendre les bouquins et tout. Et en fait, elle se dit bah nique sa race. Elle commence à mettre les bouquins dans le sac, elle est chargée dans la voiture. Et en fait, c'est sa putain de maison. Et ce passage là. Mais l'injustice que j'ai personnellement ressentie était vraiment insupportable. Et du coup, j'étais là. Non, mais moi, j'ai acheté ma maison à la campagne avec mon conjoint. J'étais là, j'ai envie d'aller checker tous mes contrats pour être sûre que ça restera toujours ma maison.
Mais le pire, c'est que le contrat, il protège Eleanor. C'est elle qui décide d'abandonner la maison parce que c'est devenu pour ses enfants, en fait. Parce que c'est devenu la maison de ses enfants et que. Alors, je sais pas où elle. Oui, parce que en fait, parce qu'elle pourrait. Parce que j'étais en train de me dire, je sais plus où est la raison pour laquelle elle reprend pas la maison elle toute seule, tu vois, avec ses enfants. Enfin, pourquoi elle. Est-ce qu'elle a pas les moyens de l'avoir pour elle toute seule? Mais non, c'est que ses enfants veulent pas l'avoir et ils veulent être avec leur père et leur père, il veut être dans la maison et du coup, elle abandonne tout parce que bah et notamment Toby qui en plus à ce moment-là est déjà post-accident. Elle veut pas lui faire changer ses repères et tout et lui ouais. Veut être à la maison avec son père qui en plus pour le coup les personnes sont des êtres complexes et nuancés. Cam il s'implique beaucoup dans la rééducation de Toby et lui fait faire des progrès dont Eleanor serait incapable, donc c'est très on comprend toutes les raisons qui font que et en même temps c'est une telle douleur de savoir que cette meuf, elle est toute seule chez elle à Noël dans son appart nul, ou elle va chez des gars rencontrés sur Mythic qui veulent juste trouver une femme dans leur famille, là. Horrible.
Cette scène, elle est horrible.
Ah ouais. Pendant que toute scène, sa horrible, famille donc, est Anna, autour du feu, du sap. Leur chien, son chien, il meurt, et ils lui disent hop, et ils prennent un nouveau chien, et ils lui disent pas, et j'étais vraiment en mode, mais putain, ils ont pris ta maison, ils ont pris ton chien, ils ont pris tes enfants. Peut-être faut aller mettre des droites à un moment.
Ouais, mais Eleanor, elle se sacrifie en permanence pour cette famille qu'elle a voulu faire. Et c'est ça qui est aussi parfois peut-être difficile à comprendre. Et c'est là que j'ai trouvé le livre intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de moments où moi, j'ai pas compris l'héroïne, tu vois. Mmh. Où je me dis, mais en fait, c'est ta vie, c'est ton rêve, c'est tes mômes. C'est terrible à dire, mais bats-toi pour ton rêve, prends cette maison, c'est la tienne, elle te revient de droit. Et dis à tes enfants ce que leur père a fait et comment c'est lui qui a précipité la famille dans la détresse actuelle. Et c'est terrible.
Oui, parce que juste pour le contexte, ce qui mène au divorce, c'est pas... Enfin, oui, c'est l'accident de Toby en vrai, mais elle veut pas dire à ses enfants, c'est la faute de votre père si votre frère, il a failli mourir. C'est juste que c'est le vrai truc, c'est votre père, il m'a trompé avec la babysitter et ça se fait à plein de niveaux. Donc voilà, on n'est pas sur l'accusé d'avoir causé le handicap de Toby, mais... Bah elle garde pour elle le fait que Coco c'est pas juste la babysitter. Hein.
Bah ouais, c'est ça.
Il y a Steele Marty qui dit elle est trop passive, ça m'a rendu ouf. Le pire c'est qu'elle a tout sacrifié et ses enfants la détestent, c'est le contraire de ce qu'elle pensait faire.
Ouais, bah oui, mais c'est là que le bouquin est passionnant en fait. C'est un point de vue qu'on a assez peu, je trouve. Enfin, moi, j'avais jamais lu de bouquin qui exprime le point de vue, en l'occurrence, d'Eleanor. Et même si, en effet, il y a plein de moments où j'étais là, mais putain, mais c'est incompréhensible, quoi, cette passivité, en effet. Bon, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Mais voilà, il y a plein de moments où on a envie de se révolter à sa place. Mais je trouve ça chouette, ce parti pris parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui se retrouvent dans cette situation où elles se sacrifient pour ce qu'elles estiment être le bien de leur famille et de leurs enfants, même si c'est au mépris de leur bonheur à elles. Et voilà, ça existe et donc je trouvais ça vraiment cool qu'on ait ce point de vue là, quoi.
Oui, il y a Virginie dans le chat qui dit c'est vraiment le prototype de la mère sacrificielle au point de se supprimer elle-même de sa propre vie et de son rêve. Et c'est vrai qu'au final, sa vie à elle et son existence à elle, elle finit quasiment au moment où elle rencontre Cam, parce qu'avant, elle est, bah, certes, elle est très seule, mais elle est indépendante, tu vois. Enfin, je suis là, ok, la meuf, elle a 20 ans, elle est orpheline, elle a en plus vécu des viols et un avortement clandestin avec un connard, là, le grand frère de sa pote quand elle était ado. Dans le seul endroit où elle était censée être en sécurité, et c'est chouette, tu vois, que les parents de sa pote, ils les recueillent. Enfin, c'est vraiment très, très généreux, mais au final, ils l'ont mis en danger, ils l'ont mis en présence d'un prédateur. Et bah, toute sa jeunesse, voilà, sa vie de jeune adulte, où elle achète sa maison, elle gagne son argent en racontant, des livres jeunesse autour d'une fille qui vit les aventures qu'elle, elle a pas pu vivre quand elle était petite. C'était vraiment, je trouve, un bel exemple de liberté et à la fois d'indépendance, quoi, de femme indépendante. Elle vit sur sa ferme, elle a certes un voisin qui est un peu croque-love d'elle, qui vient l'aider avec les travaux, mais c'est pas, enfin voilà, c'est très respectueux et tout.
Ouais, elle est bien tout.
Et ils disent des fois, elle parle à personne à part son chien pendant 3 jours et elle écrit ses bouquins et elle encaisse ses chèques et j'étais là, mais meilleure vie, tu vois, genre vraiment trop cool. Et bah, à partir du moment où elle rencontre Cam et surtout encore plus évidemment à partir du moment où elle devient mère, elle disparaît, même bah, ses livres se tarissent et elle fait une rubrique. Du coup, elle retrouve le succès parce qu'en fait, elle est hyper talentueuse avec une chronique sur sa famille. Mais c'est pas du tout, enfin, c'est quasi un truc qu'elle fait en cachette, tu vois. Il y a jamais de truc de ah oui, son mari le lit, parce que c'est les potes de son mari qui lui en parlent au softball, genre ah bah dans la BD de ta meuf, elle dit que t'es parti skier ou je sais pas quoi. Donc en fait, personne s'intéresse à qui elle est, tu vois, à part que son rôle de mère et de femme au foyer, slash un peu daronne de Cam aussi, hein, qui sait faire plein de choses, mais visiblement pas surveiller ses enfants. Et je pense que moi, ça a fait écho, alors sans que ça soit à un tel degré, et aussi mon père est plus cool que Cam, mais je pense que c'est un peu la vision que ma mère a de la maternité, c'est que évidemment les enfants passent toujours d'abord, mais aussi, en fait, Eleanor, elle est stressée, tu vois, elle est en permanence en train d'anticiper ce que ses enfants pourraient vouloir, etc. Et un des grands thèmes du bouquin, c'est on peut jamais savoir. Parce qu'en fait, tu peux essayer de protéger tes enfants de tout le mal du monde et un jour, ils tombent dans les temps. Et tu peux être persuadé que t'as 2 filles et en fait, non, t'as 2 fils et 1 fille. Et tu peux croire que ton fils, il va être le plus grand compositeur du monde et en fait, il va avoir un handicap léger et travailler avec des chèvres, il sera content, tu vois. Et je pense que c'est un truc, le lâcher prise et admettre les risques et le fait qu'on peut pas protéger les enfants de tout. C'est un truc avec lequel ma mère lutte un peu aussi et elle est assez protective. Et même, tu vois, c'est ce genre de parents où quand t'es gamin et que tu grimpes dans un arbre, c'est ma mère, il y avait mon père qui faisait « Oh, bah, un petit singe !» et ma mère qui faisait « Donc, tu vois, le bruit qui te stresse, quoi. T'es là « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, j'ai un peu grandi avec une certaine peur du monde. Et je sais qu'il y a une scène qui m'a énormément parlé à ce sujet-là. C'est à un moment... Il y a une séquence qui illustre le souci, enfin le caractère j'anticipe beaucoup d'Eleanor et à quel point ça peut fatiguer ses enfants, puisqu'elle est à un match de softball d'ailleurs, je crois, avec ses enfants et elle se rend compte que sa, en gros, elle se rend compte que sa fille, je crois que c'est Ursula, donc la fille du milieu, elle se rend compte que sa fille qui est sur les gradins plus bas, elle a envie de faire pipi, qu'elle n'ose pas y aller parce qu'elle va bientôt rentrer sur le terrain ou je sais pas quoi. Elle se rend compte que sa fille vient probablement de se pisser dessus. Et du coup, elle va la voir et elle fait semblant de renverser, enfin, elle fait exprès de renverser son coca sur elle pour masquer la tâche. Et ah, c'était avec Al, pardon, c'est Amilaya qui précise, donc c'était avec Al, son enfant en trans, et donc son fils, mais avant sa transition. Et en fait, l'enfant, donc Al, qui est ado à ce moment-là, est vraiment limite plus mortifié que sa mère soit venue le gérer que de cette pisser dessus, tu vois, ce qui est, I guess, un truc qui arrive. Et moi, ça m'a vraiment parlé parce que, genre, je sais que maintenant que je suis adulte, des fois, j'ai grand besoin d'être toute seule, tu vois, vraiment toute seule et avec personne. Et la phrase que j'utilise, c'est « j'ai pas envie d'être vue, j'ai pas envie que d'autres gens soient conscients de ma présence » parce que je pense que dans mon éducation, il y a eu ce truc de... Alors, pas de parents hélicoptères comme on peut l'avoir maintenant, parce qu'en plus, il y avait moins de nouvelles technologies, donc il y avait quand même un peu de liberté aussi autour de ça, mais je sais que ma mère, elle est toujours en hyper-vigilance, tu vois, de comment vont les gens, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que tu veux quelque chose, genre, si je suis dans le salon en train de tailler le bout de gras avec mes parents, mon père, voilà, on est là, on papote et tout. Si mon verre est vide ou que j'ai un t-shirt et que j'ai l'air d'avoir un peu froid, mon père, il sent pas les couilles. Je suis grande, tu vois, je peux m'en sortir. Ma mère, je sais qu'en discutant avec elle, elle a un hémisphère de son cerveau qui est là. Je vais lui amener un plaid, je vais lui reproposer un verre, un machin et tout. Et des fois, je suis là, juste genre... Arrête de t'occuper de moi, tu vois, d'être concentré sur moi. Des fois, j'ai juste envie que les gens s'en foutent un peu de ma vie et qu'ils me laissent être ouais. chelou dans mon coin. Et du coup,
ouais, l'ultra prévenance, ouais.
Ouais, et j'ai trouvé que ce paragraphe, il était hyper parlant parce que tu comprends à la fois complètement Eleanor. Enfin, évidemment, que tu vas pas laisser ton enfant se faire potentiellement se taper la honte parce qu'il s'est uriné dessus. En plus, à l'adolescence, quoi. C'est pas un moment où t'as envie de ça. Et j'ai compris aussi Al qu'elle a en fait. Enfin, ça fait combien de temps que tu me surveilles ? Tu vois, arrête de... Laisse-moi tranquille, quoi. Il y a Terreur Nocturne qui dit « Être daronné, c'est la pire chose quand on n'a rien demandé. » Et en même temps, bah, c'est encore un enfant et c'est sa daronne. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. C'est qu'elle est là, bah, qu'est-ce que je peux faire de différent ? Bien sûr, je suis votre daronne, c'est donc vous daronne.
Et alors, d'ailleurs, je crois que Joyce Maynard écrit actuellement la suite de « Où vivaient les gens heureux », qui se passe plus tard dans, je crois, la partie senior de la vie d'Eleanor, quand elle a des enfants qui sont encore plus avancés dans leur vie d'adulte. Et donc, j'imagine qu'on va creuser encore plus ce sillon de c'est quoi être une daronne qui veut daronner ses enfants quand t'as passé un certain âge et que tes enfants ont vraiment un certain âge.
Et qui sont parents eux-mêmes, puisqu'elle
il y a quand même un
arc sur la fin de, sur la dernière partie du bouquin où Ursula devient maman. Et c'est en allant rencontrer sa petite fille Louise que Eleanor fait, comme elle dit, une visite à Crazyland parce que elle est avec sa petite fille, elle est contente d'avoir une bonne relation avec Ursula, etc. Et Ursula évoque elle est vraiment bien, la compagne de papa et tout machin. Je comprends pas pourquoi t'es partie comme ça. Et Eleanor, tu vois, plusieurs fois, elle dit c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Et elle sent que ça monte, et tu sens que ça monte. Et j'étais là, oulala, oulala, oulala. Et en fait, c'est le moment où elle décide de révéler à sa fille que, bah, en fait, c'est que son père, il baisait la babysitter et que c'est pour ça que maman est partie. Et après, sa fille lui parle plus pendant des années parce qu'elle la déteste d'avoir cassé l'image qu'elle avait de son père. Et franchement, c'est dur.
Et finalement, c'est toujours la faute d'Eleanor.
Mais c'est ça, c'est pour le coup, franchement, c'est pas. Là, pour le coup, c'est vraiment un beau sacrifice de sa part de pas leur avoir dit pendant toutes ces années. Et tu dis qu'une fois que t'es devenu toi-même adulte, que t'as peut-être vécu des trucs, des relations, des machins, bah, c'est ok, tu vois. Bref. Ouais. Bah écoute, s'il y a une suite, super, on va encore.
Moi j'ai très hâte. Je sais qu'elle l'écrit actuellement, donc impossible de vous dire quand est-ce que ça sortira, mais ça devrait arriver, quoi. Je lis un peu le chat en même temps.
Le chat est passionnant. Selon moi, il y a
la
Virginie,
réaction d'Ursula est typique des enfants qui s'accrochent à la mythologie des parents et de l'enfance que construisent certaines familles. Tout à fait le cas ici. On sent très fort que dans les années d'enfance, il y a l'idée de construire une mythologie de famille parfaite à leur façon et les parents, en ne révélant pas le secret de famille, perpétuent cette mythologie. C'est vrai.
C'est vrai et je trouve que ce truc de mythologie des parents, c'est un thème hyper intéressant. Et de quand est-ce que tu... Surtout quand tu deviens adulte, quand est-ce que tu commences à avoir une relation de personne à personne avec tes parents, d'adulte à adulte, et au final, c'est la partie post-séparation, c'est beaucoup ça, c'est comment elle construit une relation d'adulte à adulte avec ses enfants, à la fois elle, en arrêtant de les voir comme les personnes qu'elle pensait qu'ils étaient. Alors, c'est d'autant plus visible, évidemment, quand t'as un enfant qui transitionne, parce qu'elle pensait avoir une fille, et en fait, elle a un fils, mais ça marche aussi avec Ursula et avec Toby, c'est « Ok, vous êtes pas les personnes que j'avais projetées, je dois vous aimer et vous accepter comme vous, pour les personnes que vous êtes, mais c'est aussi pour les enfants devenus grands de plus voir maman comme maman relou et papa comme papa parfait et de voir en fait que c'est des personnes qui ont fait de leur mieux, qui ont fait des erreurs. Et je trouve que du coup, oui, c'est très juste que ça soit un bouquin sur le pardon parce qu'à la fin, le tout dernier arc du livre, c'est que Eleanor, du coup, apprend que Cam a un cancer et a priori va venir revivre à la ferme pour l'accompagner dans ses dernières années, ce qui est pour le coup en table. Alors peut-être que... Est-ce qu'il le mérite ou pas ? Nous pouvons en débattre, mais en fait c'est un truc de... Oui, on peut s'en tenir aux vieilles rancœurs et se rappeler tout ce qui fait, tout le mal qu'on s'est fait, mais à la fin t'as plus que quelques années à vivre et... Genre, est-ce que ça va me rendre plus heureuse de savoir que tu les as vécues tout seul comme un connard, tu vois ? Je suis pas sûre. Je comprends, ouais.
T'as envie de les vivre en t'occupant encore de ton quatrième enfant qui a vraiment fait exploser l'intégralité de tes rêves et de ta famille, quoi. Donc, mais je crois que je sais plus qui le disait tout à l'heure. Je vais ouvrir à mon chat que la fin l'avait énervé.
Style Marty dit j'ai détesté la fin. C'est un retour à la case départ.
Bah ouais, c'est un peu. C'est vrai que c'est compliqué, encore une fois, de comprendre la décision d'Éléonore. Même
d'Éléonore, ah non, moi je la comprends. Je la comprends pas. Ouais, vas-y. Pas de soucis. C'est genre, ok, on accepte le patriarcat. Il y a Kira Lucar qui dit, je l'ai conseillé à ma mère, qui a bloqué sur le pardon. En mode, c'est ça le sujet du livre. J'étais pas d'accord, je comprends pas. Pour moi, si c'est. Enfin, je suis. En fait, je comprends sa décision à Éléonore parce que. C'est pas un truc de. Parce que. Kira Lucar dit c'est un peu ok on accepte le patriarcat. Pour moi c'est différent parce que Cam maintenant il admet qu'il a merdé et Éléonore elle sait aussi où est-ce qu'elle elle a merdé. Elle a pardonné à ses enfants lui ont pardonné en tout cas dans la mesure du possible et je trouve que c'est beau d'offrir à un homme que tu as assez aimé pour quand même faire 3 enfants avec lui et qui bah, au final on dira ce qu'on veut. Tous ses enfants, ils voulaient vivre avec lui, tu vois. Donc, bah, peut-être, enfin, clairement, il leur a apporté du bonheur et une vision de la vie qui les épanouissait. Et d'accompagner cette personne qui se trouve être malade dans la fin de ta vie, de sa vie, pardon, mais aussi de revenir à la ferme. En fait, j'ai l'impression que si. Que Éléonore, elle décide, je vais arrêter de me priver de trucs que je veux pour des mauvaises raisons. Et en fait, je veux vivre dans cette ferme. Je veux avoir une relation avec mes enfants. Je veux... Enfin, une relation saine avec mes enfants. Et je trouve que des fois, pardonner, c'est aussi... ça guérit autant la personne qu'on pardonne que la personne qui pardonne, tu vois. Et bon, je suis pas très... Pour le coup, je suis pas judéo-chrétienne. Je suis pas en mode tendre l'autre joue. Et j'étais moi-même extrêmement en colère hein, de plein de choses dans le bouquin. Mais je sais pas, j'étais là... En fait, ouais, c'est une belle... Pour moi, c'est une belle fin. C'est une belle décision, tu vois. C'est bah, littéralement, la métaphore, c'est ce fameux arbre centenaire qui se prend la foudre et qui s'effondre et qui ruine la maison, parce que là, voilà, il casse la ferme. Ok, est-ce qu'on pleure sur ce qui est fini ou est-ce qu'on est content de ce qui commence, tu vois. Et j'ai l'impression qu'à la fin, Éléonore, pour une des premières fois de sa vie, elle s'autorise à être contente de ce qui commence, à voir... pas le verre à moitié plein et je suis d'accord le chat il dit bah, il s'excuse jamais oui on fire
ouais donc. Moi j'ai dit, détesté
il s'excuse jamais le gars et tout machin ce qui est vrai enfin je dis pas que c'est parfait hein, mais j'ai compris pourquoi elle pardonnait.
Moi j'ai détesté cette fin j'ai même pas aimé le truc de l'arbre mais bon ça c'est encore autre chose
je l'ai trouvé un petit peu gros en vrai on avait tellement parlé de cet arbre j'étais là original l'arbre symbolique s'effondre ouais, c'est un peu un arbre généalogique à reconstruire
ouais c'est symboliquement un peu lourdingue
ça clignotait un peu quoi.
Et puis bon de toute façon dans le roman il y a alors moi c'était un petit peu l'écueil que j'ai trouvé au bout d'un moment je trouvais qu'il y avait vraiment un peu toutes les thématiques on venait un petit peu cocher un milliard de trucs et j'étais là bon en vrai il y a des trucs qui sont un peu survolés parfois et j'aurais aimé qu'on prenne plus le temps d'explorer certaines thématiques et notamment tu vois cette histoire de féminicide de sa meilleure amie qui est franchement assez légèrement traitée tu vois et en fait il y a plein de trucs qui se passent et notamment vers la fin où je suis là franchement tout c'est un petit peu ces clichés le truc de l'arbre et tout j'aurais aimé qu'on s'attarde pas là-dessus et qu'on se concentre sur d'autres moments du livre mais bon ça c'est très personnel mais moi j'ai vraiment pas aimé ce truc de finalement, elle va commettre cet ultime sacrifice, tu vois, encore un autre. Et je pense que ça, pour le coup, ça, ça réverbe profondément chez moi. Moi, déjà, je suis une revancharde. Je suis une grosse semarde.
Toi, t'es petit, comme on dit. T'es là en mode, je n'oublie rien et je me vengerai.
Non, I'm holding a grudge. Non, vraiment, je suis vraiment une énorme revancharde. Mais pourquoi je suis une revancharde? Je pense que c'est intéressant. C'est que j'ai grandi avec une mère qui est certes ultra... marrante et un peu cassante et un peu zinziflex, mais j'ai grandi avec une mère sacrificielle aussi énormément. Ma mère, elle a sacrifié plein de choses dans sa vie et notamment quand elle a rencontré mon père qui lui-même a sacrifié plein de choses puisqu'il est parti de l'île Maurice pour s'installer en France par amour pour ma mère.
C'est pas le même climat, l'île Maurice et le Valois-Péré, hein. C'est en termes de choc des cultures.
Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Et en fait, ma mère, je pense, par culpabilité d'avoir fait venir quelqu'un de si loin pour vivre avec elle, dans des conditions un peu difficiles au départ. Mon père était un homme qui avait fait des études, qui s'est retrouvé à nettoyer des toilettes pour des gens riches et à faire plein de petits boulots qu'il estimait, lui, être humiliant, etc. Et je pense que ma mère, ayant vécu dans la culpabilité d'avoir fait émigrer mon père, a sacrifié un maximum de choses qu'elle aimait et qu'elle était pour lui. Et notamment, mon père était un homme extrêmement misogyne qui... coucou ! Je dis coucou à une ombre.
C'est Nodus, tu veux dire coucou ?
Salut Val, ça va bien? Il arrive un moment où je me confie vraiment sur ma famille de manière très profonde.
Et je t'écoute profondément, mais je profite de cette interruption pour dire un grand merci à RoboSapien qui a offert un sub à Coolix. Merci
beaucoup.
Vous pouvez vous abonner, mais aussi offrir des subs. Va sur Twitch et clique sur offrir des abonnements.
Non, mais je vais
te faire ça après.
Bien plutôt. et si tu veux, donc oui, mon père était quelqu'un d'assez, même plutôt très misogyne. Et qui ne supportait pas, et de très jaloux, de très possessif, qui ne supportait pas que ma mère ait beaucoup d'amis qui étaient des femmes, et pas beaucoup d'amis qui étaient des hommes non plus d'ailleurs. Et je me souviendrai toujours de cette phrase exceptionnelle de mon père, attention aux oreilles sensibles, s'abstenir. Quand tu ouvres le dictionnaire à pute, il y a une photo de ta marraine, voilà, pour parler de la meilleure amie de ma mère. Voilà, on est sur une
qui
personne.
Qui est aussi la dame qui parle aux animaux, mais ce n'est pas le sujet ici.
Exactement. Voilà, donc on est sur un niveau de misogynie assez exceptionnel de la part de mon paternel que dont je parle notamment dans mon roman.
Les journaux de l'Odomé aux éditions J.C. Lattès.
Exactement. Et ma mère a arrêté de voir plusieurs de ses amis. A évidemment sacrifié énormément de choses pour cet homme dont elle se sentait parce qu'elle se sentait responsable de l'avoir fait venir ici. Et puis après, moi j'ai grandi, j'ai vécu aussi avec mon grand-père que ma mère a pris avec nous parce que elle avait envie de lui offrir une vie en dehors de l'EHPAD. Donc on a sacrifié nous tous, toute la famille, un gros morceau de notre vie, moi un gros morceau de mon adolescence à m'occuper d'une personne en situation de gériatrie quasiment. Et puis voilà, j'ai une mère qui a commencé à s'occuper de tous les vieux de l'EHPAD d'en face et qui passe sa vie à se sacrifier littéralement pour les autres et personne ne le lui rend jamais. Et c'est absolument
insupportable. Et ça fait une fille qui achète un chiot sur un coup de tête parce qu'il est maltraité et qu'il mérite mieux. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire de
ce caractère
revanchard, il te vient de... En fait, j'ai preuve pendant des années que même si tu te sacrifies de fou, il y a des gens qui sont pas reconnaissants ou alors ça t'apporte pas forcément le bonheur et tout. Et du coup, bah, d'autant plus quand tu te sacrifies pour des gens qui ne sont pas reconnaissants comme Cam ne l'est pas avec Eleanor parce que même au-delà de « ok, il l'a trompé », ce qui en vrai peut s'entendre, bah, c'est un moment où leur couple il est déjà dead en vrai depuis l'accident, hein, mais qui ne lui dit jamais merci. Qui ne lui dit jamais merci de... Tu vois, il pourrait y avoir un côté « on est une bonne équipe, merci de compléter mon côté un peu foufou, merci de payer l'intégralité des trucs, tu vois ». Enfin, il n'y a pas de reconnaissance. Donc je comprends que tu aies grandi avec cet exemple et que tu aies dit...
Moi, j'ai voulu me construire par opposition à cette figure maternelle-là, même si j'admire ma mère profondément pour son infinie gentillesse et son infinie générosité, et j'espère que je saurai perpétuer ça dans ma vie à moi, d'être généreuse avec les autres. Néanmoins, je pense que généreux veut pas forcément dire
de se sacrifier,
sacrificiel, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est ça que j'ai eu du mal à pardonner comme parti pris de Joyce Maynard à la fin, où j'aurais aimé une morale même un petit peu plus qui encourage les potentielles lectrices de Joyce Maynard à dire, bah en fait, quand on s'est fait rouler toute notre vie, peut-être à la fin on se rebelle, tu vois.
Oui, et bah dans le chat, ça revenait le côté genre je pourrais mieux comprendre ou accepter la fin, la décision qu'elle prend à la fin de revenir s'occuper de Cam au moment où il a de nouveau besoin d'aide, hein, c'est pas quand il va bien qu'il la sollicite, si jamais elle avait pris le temps à un moment de vivre pour elle, si elle avait vécu un bout de vie épanouissant et qu'elle choisissait du coup de revenir à un truc mais un peu en connaissant l'alternative. Là c'est vrai que, bah, à part voilà, cette brève période où elle vit toute seule dans sa maison avec son chien au début, elle n'a pas eu cette expérience de vivre pour elle, puisque après la séparation, elle vit vraiment en pilote automatique et encore une fois, je pense qu'on parle d'un trauma de fou, enfin de multiples traumas, hein, qu'elle a vécu. Et pas beaucoup de gens qui font. Et je crois que c'est Steel Marty qui le disait dans le chat, et c'est très vrai, qu'en fait, il y a très peu de personnages qui lui démontrent de l'indulgence, que ce soit, alors oui, ses enfants et son mari, mais aussi bah, les femmes qui l'entourent. Alors, bah, par exemple, sa meilleure amie, peut-être que comme, évidemment, elle est en situation de violence conjugale physique, elle se dit, bah, toi, ton mari, il est super, il s'occupe, enfin, tu vois, il est fun, il t'aime, il te tape pas et tout. Mais même les autres femmes de la communauté, il y a une compréhension mutuelle de leur vie et de leurs enjeux de femme et de mère, mais il n'y a pas d'indulgence. Et comme elle se flagelle beaucoup, notamment quand elle va à Crazy Land, comme elle dit, alors qu'en fait, c'est peut-être tout à fait humain et normal, et qu'elle aurait peut-être dû aller à Crazy Land et gueuler plus souvent. Bah, elle se démontre pas d'indulgence, mais personne dans le bouquin ne lui dit, ton ex, c'était un con, tu mérites pas ça. Tes enfants, ils sont un peu injustes avec toi, tu vois, quand Ursula, elle décide de plus lui parler et de la priver de sa petite fille juste parce qu'elle lui a dit un vrai truc, tu vois, où je suis là, mais en fait, ok, c'était peut-être une daronne un peu stricte et un peu stressée, mais... Et je pense que l'accident de Toby a été traumatisant pour l'intégralité de la famille, hein. Mais pourquoi tout le monde lui aboie dessus tout le temps, quoi ? C'est vraiment cruel, limite. Et c'est vrai que si peut-être il y avait eu une partie du bouquin où il y a des gens qui lui disent « c'est pas ta faute, c'est vraiment lui qui est un con », etc. Un peu comme Timmy Puglio essaye de lui apporter cette sérénité et cet amour à sa façon un peu maladroite de jeune gars un peu fauché, mais qui marche très bien, tu vois, c'est trop chou, je trouve, comme on l'a dit, les passages avec le bain et tout.
Ouais.
Mais bon... Sinon, personne s'excuse, personne prend soin d'elle, personne se préoccupe de « tiens, peut-être que quand Eleanor, elle pète un câble, c'est parce qu'il y a eu des trucs avant, et peut-être que si elle part de la maison qu'elle a achetée, sa maison de rêve, et qu'elle laisse ses trois enfants à son ex-mari, c'est pas parce que c'est une mauvaise mère démissionnaire, mais que elle a peut-être pas le choix, quoi. » Donc c'est un peu injuste comme livre, c'est pas un livre où tout finit bien pour les gens qui le méritent, et en même temps, c'est aussi ça la vraie vie, quoi. Mais c'est pour ça que je lis pas des putains de drames intimes. Après, je suis là. Et le pire, c'est que c'est vrai. Genre, il y a des gens à qui c'est vraiment arrivé.
Non, mais ouais, je suis d'accord. C'est vraiment éprouvant. Cette injustice infernale. Mais bon, moi, ça m'a donné envie d'en lire plus. Franchement, je suis sortie de là. Et j'étais là. Bon, bah, en fait, on n'a pas parlé du style de Joyce Maynard, de sa manière d'écrire purement littéraire, quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé, Mimi. C'est vrai qu'on a quasiment pas abordé cet aspect-là, mais
ouais, sur la forme, bah, moi c'est surtout ce côté les flashs d'images, les flashs de souvenirs, la façon dont pour te décrire une pièce, elle va pas te décrire une pièce, mais te dire il y a un puzzle d'effets sur la table et des chaussures en vadrouille devant la porte et tout de suite tu vois. C'est ok, c'est une maison familiale, c'est une maison... Parce que pour le coup, elle est stressée sur plein de trucs, mais pas sur le rangement, ce qui est cool. Elle veut une maison vivante et avec des trucs qui traînent et qui montrent que les gens y vivent, puisqu'elle a été beaucoup toute seule. Et du coup, moi, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a parlé. Je pense que c'est comme ça que je perçois le monde et comme ça que, dans les rares fois où je m'essaye à la fiction, j'écris, en fait. Donc c'est comme ça que j'écris quand je me souviens d'un moment, je vais pas... Ou quand je veux raconter un moment, dans ma tête, ce qui arrive, c'est pas... des trucs très précis ou pratico-pratiques, c'est vraiment... Il y avait la lumière qui tombait de cette façon sur la poignée de la porte et ça sentait un peu le chèvrefeuille, tu vois. Donc j'ai trouvé que c'était un très beau style et comme je l'ai dit, j'ai pas assez lu d'autrices féminines, clairement, dans ma vie, et je suis très contente d'avoir lu celle-ci parce que... Je dis pas qu'elle écrit comme ça parce que c'est une femme, hein, c'est pas génétique de percevoir le monde comme ça, mais je pense que ça m'a d'autant plus émue enfin, ça m'émeut toujours quand un auteur ou une autrice présente le monde un petit peu comme je le perçois, et ça m'a d'autant plus ému que ce soit une femme, je pense, une femme avec laquelle j'ai pas grand chose en commun, une femme de 70 ans américaine qui a une grande famille et tout, mais j'ai trouvé que ça légitimait un petit peu. Je pense que comme j'ai pas lu énormément de femmes et qu'on vit dans le patriarcat, des fois j'ai un peu ce côté genre voilà, c'est mon comme on disait, tu vois, genre c'est moins intéressant, quoi. Je vais pas juste raconter ma vie, ça intéressera personne, mes petites émotions, mes petites peurs, mes angoisses ou ma façon de percevoir le monde, là où les gars, c'est bon, ils peuvent te faire un bouquin de 2000 pages sur leur bite, tu vois, y a pas de problème, c'est un best-seller. Donc j'étais très touchée et ça m'a donné l'impression que percevoir le monde de cette façon, c'est légitime et intéressant, et que raconter une vie de femme, c'est légitime et intéressant aussi. T'en as pensé c'est quoi, clair. Toi, qui as lu beaucoup plus aussi de romans de ce style, je sais pas, enfin de ce genre, mais du coup, je sais pas comment ils sont écrits les autres drames familiaux.
Bah, moi, déjà, je lis beaucoup de femmes, je lis surtout des femmes, et parce que.
T'es une meilleure féministe que moi, on le sait. Hein.
Non, non, mais c'est juste que c'est vrai que, en fait, mais c'est peu importe le médium. Que ce soit le cinéma, la littérature, les séries, j'aime les récits familiaux et les récits surtout de nana, auxquels je peux m'identifier ou un peu moins d'ailleurs, mais j'aime les tranches de vie, j'aime les fresques familiales. Bah tiens, je suis en train... Attendez, je note, j'ai mis dans les cheveux. J'ai du bonheur. J'ai des idées qui me viennent pour vous conseiller des livres au fur et à mesure. Je ne me souviens plus comment s'appelle cette douce. Enfin bon, bref. Et... j'aime les grandes tranches de vie de là, tu vois, ça se passe sur 40 balais et du coup j'étais en train de penser à un livre,
les fresques,
que j'adore et j'en profite pour vous conseiller un livre que j'ai adoré, alors là vraiment fresque familiale ultra féministe qui se passe au Canada, qui s'appelle Le goût du bonheur. Il y a 3 tomes. Chaque tome fait genre environ 1000 pages. Le premier, c'est Gabrielle, Le goût du bonheur. Marie Laberge, elle s'appelle. Voilà, c'est une romancière québécoise.
Je vous mets dans le chat.
Ouais. Alors là, on est parti sur, je sais pas, peut-être 50 ans de vie de famille sur une île au Canada.
La roue du bonheur, c'est ça ?
Le goût du bonheur.
Le goût du bonheur, pardon.
Ne vous y fiez pas, hein, ça fait un peu cucul à prale. D'ailleurs, ça allait à plein d'égards.
Alors, mais, désolé, mais pour un livre qui s'appelle Où vivaient les gens heureux ? Les gens n'étaient pas heureux, Kalindi, tu m'as menti. Les gosses étaient heureux avec leur fucking bonhomme bouchon pendant genre 3 ans et après, c'était la merde à tous les niveaux.
Bah, c'est... Le goût du bonheur, c'est un petit peu ça, et ça m'a fait penser beaucoup ce livre à un livre que j'aime énormément, qui était un de mes livres préférés quand j'étais adolescente, qui est un livre de Zola qui s'appelle La joie de vivre, où on parle de tout sauf de la joie de vivre, en fait. À part
bah, Zola, c'est pas sa spécialité, la joie de vivre, hein, on va pas se mentir. Il est pas fun en soirée, le frateur.
Oh non!
Non, c'est bon.
Ah, c'est bon, ça a frisé, j'ai eu peur. Oh mon dieu.
Tout va bien, mais, tout va bien. Non, la technologie ne nous lâche pas.
Non, mais Le goût du bonheur, voilà, c'est une grande fresque familiale qui se passe au Canada. Et c'est une mère qui doit porter sa famille à bout de bras. Il y a la guerre, il se passe plein de trucs. Il y a un accident d'un de ses enfants. Enfin, c'est un peu...
Super,
vraiment
super.
Des thématiques très similaires. Mais alors là, vous êtes parti pour 3000 pages, quoi. Donc, si vous avez aimé Où vivaient les gens heureux. Alors bon, pour en revenir
3000
à...
pages de ça, c'est plus de larmes que je m'en ai versé
ouais,
en 15
clair.
Ans, je pense.
Non, moi j'ai beaucoup aimé ce livre pour une raison principale, c'est que je l'ai trouvé très simplement écrit. Je trouve que Joyce Maynard, elle s'embarrasse pas du tout de milliards de figures de style
oui.
compliquées. Vraiment, elle a une langue qui est
de
très
vocabulaire obscur.
Ouais, franchement. Et au début, c'est un peu ce qui m'a pas alertée, mais je me suis dit oula, j'en prends pas plein les yeux, tu vois. Or,
oui, il y a pas des
autrices préférées. Il y a pas des autrices, mais j'ai des autrices que j'aime profondément. Qui ont recours à certains procédés littéraires et qui, quand c'est mis au départ d'un texte, me font tout de suite plonger en son cœur, tu vois. Et donc, je suis absorbée par un style un peu, tu vois, un peu enlevé. Et moi, le seul truc qui m'a manqué, parce qu'en effet, j'ai aimé la langue simple, dépouillée, naturaliste, le seul truc qui m'a manqué, je pense, mais le livre ne s'y prête pas, et à la fois, c'est pas vrai. Non, je vais me reprendre, je vais dire pourquoi après. Le seul truc dont pour moi manque Où vivaient les gens heureux, c'est l'humour. Et je pense ouais. que on peut on peut raconter les mêmes drames, on peut raconter la même, cette même affaire de charge mentale, le même accident, etc., en faisant un tout petit pas de côté et en essayant parfois d'insuffler des toutes petites notes d'humour, parce que je trouve que ça fait des récits qui sont encore plus forts. Et pour moi, une bonne comédie, c'est une comédie dans laquelle il y a énormément d'accents de drame, et une très bonne tragédie, un très bon drame. C'est quand il y a aussi des petites notes d'humour qui permettent au lecteur aussi de prendre un petit peu de distance parfois avec le récit. Et parfois, ça donne encore plus d'ampleur dramatique au moment où c'est nécessaire. Et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas été à ce point-là émue, ou je n'ai pas à ce point-là pleuré, versus je vais citer un livre que je vous conseille à tous et à toutes, qui m'a éclaté de tristesse, mais qui m'a fait énormément rire. Ça s'appelle Si tout n'a pas péri avec mon innocence, de mon autrice préférée, j'en parle tous les deux jours, d'Emmanuel Bayamaktam. Mimi, est-ce que tu as lu Arcadie? Toujours pas.
Bah, on a un book club, tu peux même m'obliger à lire des livres maintenant.
Ah oui, c'est vrai, formidable. Et ben, je vous l'annonce, ce sera un livre d'Emmanuel Bayamaktam parce que vraiment, c'est infernal pour moi de ne pas pouvoir en parler davantage.
Je vous mets un lien dans le chat. Comment s'appelle le livre que tu m'as dit?
Si tout n'a pas péri avec mon innocence.
Oh là là, ça par contre, c'est drama comme titre, j'aime bien.
C'est
pas
drama.
Où vivaient les gens heureux où en fait ils étaient pas heureux. Spoiler.
C'est vrai que c'est un peu, il y a un peu mensonge sur les.
Non mais il y a voilà, il y a mytho sur la marchandise, mais c'est pas grave.
Carrément. Et en fait, moi, ce que j'aime profondément avec Emmanuel Bayamaktam, d'ailleurs, ça ne se voit pas quand on voit la personne, c'est-à-dire que moi, je suis passionnée par elle, donc je regarde toutes ses interviews. Donc, c'est une autrice française marseillaise qui est aussi professeure de français et littérature, notamment à Marseille. Et en fait, quand tu regardes ses interviews, c'est vraiment la nana qui a l'air de ne jamais rigoler. Vraiment, elle parle comme ça. Elle a l'air toujours excédée par les questions que posent les journalistes. Mm-hmm. Elle ne veut pas trop participer aux émissions. Donc, elle est vraiment un peu taciturne et ça me fait encore plus l'aimer. Parce que putain, t'ouvres un putain de livre d'Emmanuel Bayamaktam, tu t'en souviens toute ta vie. Parce que c'est ultra trash. Mais trash, comment dire ? Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est souvent ultra trash.
En tout cas, c'est drôle. Quand on avait parlé, notamment dans Laisse-moi kiffer, tu t'avais dit, mais c'est un bouquin où je me suis tapé des méga barres. Alors, c'est d'autant plus drôle avec le contraste si en plus tu me dis qu'elle est un peu voilà, réservée, austère dans la vie, quoi.
Ouais. C'est très, ça parle énormément de sexualité de manière très crue et c'est profondément drôle. Alors peut-être que celui que je vous ai cité, Si tout n'a pas péri avec mon innocence, est vraiment son moins drôle. C'est en plus, moi ce que j'aime beaucoup, et vous allez retrouver plusieurs des thématiques qu'a abordé Joyce Maynard dans Vivez les gens heureux, mais elle parle énormément du rapport parents-enfants et enfants-parents en se mettant tantôt dans la peau des parents pour décrire leur rapport avec les enfants. Mais surtout, surtout, ce qu'elle fait, c'est se mettre dans la peau des enfants, de jeunes gamins de 10, 12, 14 ans, etc., qui critiquent, qui ont un regard critique sur leurs parents. Il y a toujours un rapport sur la monstruosité des parents dans ces bouquins, monstruosité physique parfois et monstruosité de comportement. Et moi, c'est vraiment l'exemple pour moi de la littérature parfaite qui sait conjuguer le drame absolu, où là, pareil, on a tout, on a parfois le cancer, le féminicide, l'infanticide, enfin, les pires thématiques que tu puisses aborder. Et qui se permet de faire un pas de côté pour insuffler à ses personnages énormément de caractère humoristique. Donc non, franchement,
oui, pour c'est moi, vrai c'est qu'il n'y a pas énorme, il y a pas assez d'humour peut-être dans Où vivaient les gens heureux, et bah c'est vrai que ça aurait pu humaniser encore plus Eleanor, même si elle-même, je pense, c'est pas la meuf qui fait des proutes d'aisselle et des blagues à tous les repas puisqu'elle est stressée, rappelons-le. Mais il y a parfois de la comédie dans le tragique, il y a de la comédie dans... y a quand même plein de moments heureux et de jolis moments dans ce bouquin. Et on ressent la joie des personnages, et notamment des enfants, mais pas l'humour. C'est pas... Il y a aucun moment où on rit, quoi. Et c'est vrai que ça manque.
Ouais.
J'ai remonté un peu le chat.
Ça met en fait tous les éléments au même... Ouais, oui, vas-y.
Non, vas-y, t'inquiète. Let's go.
Je disais, non, mais parce qu'en fait, du fait de tout raconter sur le même ton, ça met tous les éléments dramatiques au même niveau. Et du coup, au bout d'un moment, on finit par les accepter. Enfin, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fini par un petit peu tout accepter, puisque tout arrivait, tout était tragique. Et comme il y avait absolument...
Elle essaie de rencontrer des gars sur Mythique, bah, c'est d'une tristesse à crever. Elle a son flirt avec Timmy Pouliot, bah, en fait, elle arrive jamais, elle, à se laisser aller, à lâcher prise, quoi, finalement, et à accepter.
Et puis, bah, Miklams.
Avec lui. Et après, bah, Miklams. Après, c'est quoi? Bah ouais, il s'est marié à la même meuf que ton mari. Allez, salut, bisous, vraiment, tout va être chiant. Il y a quelqu'un qui mentionne dans le chat que donc son voisin plus âgé qui a un crush sur elle, mais qui est marié et tout, leur dernière interaction, elle est terrible parce qu'il devient sénile, il perd la boule. Et du coup, il l'agresse sexuellement. Il lui touche les seins de force, il la plaque à la voiture et tout. Et en même temps, elle sait que bah il fait pas ça volontairement et que c'est entre guillemets pas de sa faute. Enfin, tout est... d'une tristesse à crever tout le temps, et c'est vrai que en plus du fait qu'elle ait pas trop de soutien et d'indulgence, elle a pas de chance, quoi. Ça se passe jamais, putain de bien. Parce qu'en soi, super maison, y a une cascade, t'as un mari qui certes est nul en termes de charge mentale, mais qui aime vraiment ses enfants et qui a envie de leur transmettre des trucs, genre voilà, la nature, la passion du travail manuel et tout. Ça aurait pu bien se passer pour Eleanor, mais elle a un peu lâche commune. Tu vois, ses parents, ils la voulaient pas vraiment. Hop, t'inquiète, de toute façon, il meurt. Ah, oh, cool, les parents de ta meilleure amie te recueillent. Oh non, son frère te viole. Oh là là, ben non, il faut avorter. Enfin, c'est genre... Wesh, pas de chance. Sur forme, on a Virginie dans le chat qui dit que c'est une écriture très à l'américaine, show don't tell. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas dans des effluves d'émotions. Tout est suggéré à travers les descriptions de l'environnement, les interactions, les réactions des persos. Et c'est vrai que c'est ça qui peut avoir l'air un peu froid au début. Et au final, ça fait, en tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé dans le style. Après, il y a des genres un petit peu plus mitigés que nous. Il y a Terreur Nocturne qui dit « J'avoue qu'au bout d'un moment, les bonhommes bâtons me sortaient par les trous de nez. C'était surligné, répétitif et lourd. On a déjà parlé de l'arbre qui s'effondre à la fin sur la maison. » C'est genre, ok, c'est littéralement The House of Usher sur Netflix, quoi. La chute de la maison Usher, c'est genre, ouais, ok, Edgar Poe, quoi. Il n'était pas connu pour sa subtilité. Donc tout n'est pas parfait, mais clairement ce style un peu dépouillé, au final, il a réussi à te happer, quoi.
Ouais, carrément. Pardon, j'étais en train de suivre un petit peu les commentaires en direct, également des personnes qui nous regardent ce soir.
Qui sont les meilleures personnes.
Ouais, franchement, ouais, carrément. Qu'est-ce qu'on était en train de dire ? Pardon, ça m'a déconcentrée.
T'inquiète. Qu'en... Alors, tout peut-être en dernier, ça fait 2 heures et quelques qu'on se parle. Moi, j'ai le time. Mais peut-être pour tranquillement aller vers une forme de clôture et d'annonce du prochain livre du book club, que c'est moi qui l'ai choisi.
Oh putain, j'ai peur.
Du coup, il y a un thème dont il faut qu'on parle, c'est que Eleanor a un enfant trans, et donc Terreur Nocturne, qui est dans le chat, m'en a parlé, puisque merci Terreur Nocturne, a lu le livre pour le book club, et c'est quelque chose auquel moi j'ai été assez peu confrontée, des personnes cisgenres qui écrivent des personnages transgenres et qui écrivent... j'ai jamais lu de bouquin du point de vue d'un parent dont l'enfant transitionne. Et Terreur Nocturne m'a amené que, en vrai, c'est quand même douloureux que, en gros, on sait dès le début, on comprend dès le début qu'un de ses enfants et celui dont elle va au mariage au début est trans et qu'elle pensait que c'était une fille, en fait c'est un garçon. Mais après, pendant toute la vie de l'enfant jusqu'à sa transition officielle à Al, bah du coup elle l'a genre au féminin, l'autrice, enfin Eleanor, genre parce qu'elle pense que c'est sa fille et du coup bah c'est plutôt du mégenrage. Et alors je suis pas la meilleure personne pour en parler, je ne suis pas concernée, et toi non plus, mais Terreur Nocturne, merci beaucoup, je vois que t'es dans le chat aussi. Ça peut être quand même... Je pense que c'est... Moi, je l'ai perçu comme... En fait, oui, j'imagine que c'est ça qu'un parent vit. C'est que en tant que parent, bah, elle pensait avoir... En tant que mère, elle pensait avoir une fille. Et du coup, bah, quand elle repense à... Quand cet enfant-là, quand Al était plus jeune, bah, dans sa tête, c'est une fille. Mais je comprends que c'est peut-être douloureux pour des personnes trans de voir que, ok, donc finalement, mes parents, ils me considèrent toujours comme le mauvais genre jusqu'à ce que... en même temps, Joyce Maynard, elle dit dans sa postface qu'elle a vraiment voulu représenter la transition comme une libération, comme un épanouissement, et pas du tout comme une prison ou une mutilation ou quoi que ce soit. Et on comprend très clairement dans le bouquin que Al est bien plus heureux une fois qu'il est pleinement qui il est et qu'il a transitionné, donc... C'est pas une vision de « Oh là là, chelou, les gens trans ». Mais voilà, il y a ce thème qui est finalement rare dans les livres, d'être parent d'un enfant trans, tu vois. Ça, limite, ça sort un peu de nulle part par rapport au reste des thématiques. Comment tu l'as abordé, toi ? Comment tu l'as vécu ?
Bah, moi, je n'ai pas vraiment d'avis à exprimer. C'est-à-dire que j'étais contente que le sujet soit abordé dans le roman. J'ai pas eu trop de points de vue sur est-ce que c'était justement fait ou est-ce que c'était offensant. Donc franchement, moi, je me suis juste dit que j'allais attendre d'avoir l'avis de personnes concernées parce que bon, moi, je l'ai pris pour ce qu'il était. J'avais déjà lu ça pour le coup parce que c'est une thématique qui obsède Emmanuel Bayamaktab.
Ok.
La personne a une référence. Et elle se met tantôt dans la position d'une personne qui voit son enfant transitionner, tantôt dans la peau d'un jeune homme trans. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà lu.
Je savais pas du tout qu'il y avait cette thématique en fil rouge dans ses bouquins. Mais on fera dans le book club.
Les différentes sexualités, c'est quelque chose qu'elle réfléchit énormément. Emmanuel Bayamaktab qui l'obsède même, j'ai l'impression.
Donc c'est quelque chose. Sexualité et identité de genre, du coup.
Et identité de genre. Et donc j'avais déjà lu ça dans d'autres livres, ce point de vue-là. Néanmoins, je trouve qu'on n'en fait pas non plus trop cas dans Où vivaient les gens heureux. Elle raconte quel est son rapport avec Ali quand Al, c'est ça, Al ou Al. Ali, je ne sais plus comment.
À la fin, c'est Al. Al.
Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'elle raconte quand Al était encore sa petite fille. Donc c'est vrai que je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est profondément offensant de la mégenrer à ce moment-là, parce que pour elle, bah, c'était vraiment sa petite fille à ce moment, bah, c'était encore une gamine et tout. Donc,
oui, c'est comme ça qu'elle percevait son enfant à l'instant T.
Voilà, c'est ça.
Et c'est dans cet instant, je veux dire, même si le bouquin commence quand Eleanor est plutôt âgée et ensuite fait des flashbacks, finalement, tout le bouquin est un flashback. C'est pas raconté au passé, quoi. C'est vraiment genre, on est dans le présent et du coup, bah, c'est comme ça qu'elle perçoit voilà, son enfant. Terreur Nocturne dit dans le chat, au début ça m'a agréablement surpris qu'il y ait du coup un enfant, le thème de la transidentité abordé comme ça, mais ce que je t'avais dit par DM, c'est que depuis que j'ai lu le livre d'Océan, donc Océan c'est un artiste français et auteur et un homme trans, depuis que j'ai lu le livre d'Océan où il se genre au neutre quand il parle de lui avant sa transition, je trouve ça beaucoup plus juste. Donc sur le coup, c'était pas forcément choquant ou blessant, donc c'est bon à savoir. Et c'est vrai qu'après, chaque personne fait sa tambouille à soi dans ces situations-là. Mais moi, j'étais au début, ouais, enfin, a priori plutôt agréablement surprise de... En fait, j'ai jamais lu un livre où une mère va au mariage de son fils trans et où c'est juste un moment de réconciliation familiale et pas du tout... En fait, c'est pas un sujet, tu vois, mon fils est trans, c'est juste je vais au mariage de mon fils. Et j'ai trouvé que on sent le mal-être grandir de plus en plus chez cet enfant jusqu'à ce qu'il comprenne d'où ce mal-être vient. On sent qu'il y a un rejet des codes de la féminité. Il y a un malaise par rapport à son corps. Il a une vie très indépendante, en ligne, etc., à laquelle ses parents, mais même son frère et sa sœur, n'ont pas accès. Et il finit par partir et couper les ponts pendant un moment, le temps de s'épanouir et de se trouver lui-même. J'ai trouvé ça intéressant, mais comme tout le bouquin est vraiment centré sur Eleanor, au final, on sait pas ce que ressentent ses enfants. On sait ce qu'elle pense que ses enfants ressentent. On sait que son prisme à elle. Donc forcément, c'est pas la vision la plus exhaustive ni de la transidentité, ni même de pourquoi Ursula, elle pète un câble quand elle lui dit bah, « En fait, c'est ton père qui m'a trompé avec la babysitter. » Pour comment Toby l'aperçoit après l'accident ou même avant, on le sait pas parce que c'est son point de vue qui prédomine dans le livre, quoi. Il y a Amilaya qui nous dit « Ce que j'ai perçu, c'était une mère qui était prise dans ses déboires et qui pensait que le comportement de son aîné, surtout à l'adolescence, était de sa faute. Elle se flagellait à nouveau, sans comprendre que son enfant vivait son propre drame à lui-même, et que finalement, il retrouve une relation plus apaisée quand Al est lui-même enfin bien dans sa peau. » Ouais, je suis assez d'accord. Ça fait partie de...
Ouais, d'accord, ok. Je lis la suite de ce que dit Terreur Nocturne. Surtout de l'accumulation où je jouerai correctement Al dans ma tête, du coup, petite charge mentale. Ah, ouais, ok.
Je comprends. C'est comme moi quand je rajoute genre quand je lis des trucs en mode tous les cinéphiles, dans ma tête, je suis là, tout et toutes les cinéphiles, tu vois, je suis vraiment genre activement en train de rajouter de me rappeler que les femmes existent, n'est-ce pas? Donc je comprends, toute proportion gardée, ce côté, ok, je fais un effort. Ou quand on lit des livres avec des termes vraiment devenus archaïques, tu vois, des termes racistes ou quoi, on fait le petit effort mental de, hop, je vais me rappeler qu'à l'époque on disait ça et que maintenant on le dit plus du tout. Donc voilà, je vois l'idée. Et donc ouais, Amilaya disait, c'est une mère qui pensait que le comportement de son aîné, surtout à l'adolescence, était de sa faute et se flagellait à nouveau. Et je pense que même avec tout ce qu'on a dit sur le fait qu'elle subit énormément d'injustices, cette héroïne, et notamment son mari qui devrait être son partenaire de vie n'est pas dans son équipe à plein de moments où il devrait l'être, je trouve qu'il y a aussi un côté où elle construit sa propre prison, elle creuse sa propre tombe et elle est très égocentrée, quoi. Elle, dans son truc de sacrifice, au final, elle pense surtout à elle et à quel point elle veut s'oublier pour ses enfants et tout. Alors que Cam, il donne un exemple peut-être plus sain de... En fait, papa, c'est une personne. Quand il a envie d'aller skier, il va skier. Il va pas se casser le cul à faire une bûche à 8 étages parce que guess what, il en a rien à foutre. Et ok, si vous avez envie, les gosses, de faire une bûche à 8 étages, par contre, il va vous aider. Enfin, tu vois, il y a un truc de... Enfin, il va vous aider ou en tout cas, il va pas vous décourager de le faire. Et je trouve que c'est... En fait, ces deux exemples qui sont trop extrêmes, quoi. Elle est trop sacrificielle, elle pense pas assez à elle. Cam, il pense beaucoup trop que à lui. Mais au final, je comprends que les enfants, ça leur fait deux exemples de... En fait, je comprends que c'est pas la vie de leur mère qui leur fasse envie, tu vois. Mais c'est juste qu'ils comprennent pas assez, c'est ça l'injustice, que l'insouciance de leur père n'est pas possible sans le sacrifice de leur mère, quoi. Mais j'ai hâte, du coup, s'il y a une suite, de voir comment Ursula... grandit en tant que mère et comprend peut-être par quoi est passée Eleanor, parce que c'est peut-être celle dont... Alors moi, je suis l'enfant du milieu et je comprends ce truc de... En gros, Ursula, son truc, c'est je veux que tout le monde soit content et je suis tout le temps contente. Et en fait, c'est une façade. Évidemment, c'est un mécanisme de défense à tout ce qui se passe autour d'elle. J'étais quand même assez déjà râleuse et caractérielle plus jeune, donc je dirais pas que j'étais un rayon de soleil forcé, mais je me suis quand même un peu identifiée à ce truc de... Ouais, elle est au milieu... C'est celle qui a entre guillemets le moins de gros problèmes parce qu'elle a son frère qui transitionne et son autre frère qui a un accident. Et au final, elle essaye de tenir la famille à bout de bras, de sauver le couple de ses parents et tout. Mais je l'ai trouvé assez injuste avec Eleanor une fois qu'elle est adulte, quoi. Quand elle est ado, je dis pas c'est vraiment t'es ado dans une famille dysfonctionnelle. Quand elle est adulte et maman, je suis là. Enfin, un peu. Qui sait, Camille la bouffe sur la table tous les jours, tu vois, c'était pas papa, donc peut-être sois cool. Et je serais très curieuse de voir leur relation.
Même cette impression
évoluer.
Qu'elle a de croire que sa mère est pas capable de s'occuper d'une petite fille, comme si elle l'avait pas fait à 3 reprises.
Mais oui.
Et qu'elle avait pas tout sacrifié pour elle, je suis là, laisse-la la prendre dans ses bras, putain, c'est insupportable. Mais ouais, moi j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'espère que ce serait une suite. je sais plus qui disait tout à l'heure dans le chat, on a ras le cul des suites et tout. Je suis là, bon, en l'occurrence, là, on va continuer à explorer cette saga familiale, aussi déprimante et triste soit-elle. Mais je pense que ça se justifie par, en effet, on a envie de savoir quelle sera la relation, notamment de Ursula et sa mère plus tard. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de lire ça, quoi.
Il y a Terreur Nocturne qui dit « J'aimerais trop relire le livre en mode roman choral avec le point de vue de tout le monde. » Et c'est vrai que ouais. Si c'était bah, comme dans Game of Thrones où à chaque chapitre, c'est un personnage qui... C'est des points de vue qui varient. Du coup, t'as la vie intérieure et la perception intérieure de chaque personnage parce qu'à la fin, pour moi, le message du bouquin, c'est vraiment « On fait tous de notre mieux avec ce qu'on a. La vie, c'est compliqué. Et on sait jamais de quoi demain ou dans 10 minutes sera fait, donc autant... s'aimer et se pardonner, et j'entends que le thème, peut-être qu'il y a trop de pardon finalement dans ce livre, mais au moins les enfants d'Eleanor lui pardonnent aussi, donc ça c'est chouette, et ouais ça m'a parlé, donc finalement bah, merci
bah, beaucoup. Je suis très contente, franchement je suis très heureuse parce que je m'attendais pas quand je te l'ai filé. Au début c'était peut-être c'était plus une petite vengeance, je me suis dit putain là, et en fait ça me fait un peu halluciner que ça ait fait autant
Non, mais je sais que ces bouquins, enfin que ces thématiques-là, ça marche sur moi et c'est un peu pour ça que j'en lis pas, tu vois. C'est comme. J'écoute peu de musique parce que la musique, ça me fait des émotions et que je n'ai pas. Enfin, il y a plein de moments dans ma vie où je suis là, j'ai pas la bande passante pour être émotionnelle. En plus, quand j'écoute de la musique, c'est toujours des chansons tristes. Donc, la seule musique que j'aime, c'est des chansons déprimantes. Donc, super. Et en fait, si je suis dans le bus le matin pour aller à un tournage, bah j'ai pas envie de me mettre dans un état enfin je suis là mais je vais pas me mettre dans un état émotionnel complètement con parce que j'ai écouté Leonard Cohen, tu vois. Je vais écouter un podcast, ça va me faire réfléchir à des trucs et me mettre de bonne humeur. Et du coup, c'est ça ce livre, c'était vraiment OK, c'est je sais dans quoi je une fois que j'ai compris que c'était une histoire de daronne et tout, j'étais là let's go. On va sûrement mal le vivre. Je m'attendais pas à pleurer autant parce qu'encore une fois, j'ai jamais autant pleuré devant un livre de ma vie. Mais comme tu disais, c'est des pleurs qui font du bien, tu vois. C'est des pleurs beaucoup d'empathie et ça m'a donné envie de dire à ma mère que je l'aime, je l'ai fait. Ça m'a donné envie de dire à ma grande sœur qui est elle aussi maman que je l'aime et je l'ai fait. Et c'est chouette que l'art puisse faire ça.
J'en suis ravie. Je suis ravie d'avoir choisi ce livre. C'était vraiment un excellent choix.
Moi aussi.
Mais
est-ce
que ça nous amène pas à la question de qu'est-ce que t'as choisi pour le mois prochain ?
Alors, je continue dans mon game de « j'ai envie de lire plus de femmes », ok ? Et du coup, je t'ai posé récemment une question très peu anodine qui était « est-ce que tu as déjà lu Gillian Flynn ?» Je ne sais pas si on dit Gillian ou Gillian. Tu m'as dit non. Alors, Gillian Flynn, vous n'avez peut-être
pas immédiatement
son nom en tête, mais c'est l'autrice notamment de Gone Girl. C'est une autrice et scénariste américaine qui a pas mal adapté ses propres œuvres à l'écrit en écrivant le scénario. Et moi, j'ai adoré Gone Girl et j'ai adoré une autre production basée sur une œuvre de Gillian Flynn que tu as moins aimée qui s'appelle Sharp Objects en anglais, qui était une mini-série HBO avec Amy Adams qui est dans le top 5 des séries que j'ai vues dans ma vie, en vrai. Ça m'a laissé une impression absolument folle. Et du coup, pour le book club d'avril, on va lire Sharp Objects de Gillian Flynn.
Oh non, tu te fous de ma gueule.
Mais non, let's go. Ça s'appelle Sur ma peau en français. C'est disponible partout, en poche, en tout ce que vous voulez. Je vous le mets dans le chat. Et on va lire Gillian Flynn qui, en plus, en tant qu'autrice et que femme qui écrit, il y a plein de trucs à dire, elle représente vraiment certaines facettes du féminisme, enfin, elle est aussi reconnue comme une autrice qui fait un peu bouger les lignes des livres de femmes qui marchent, et on se rappelle de Gone Girl et notamment du film qui avait cartonné. Donc on va lire Sur ma peau de Gillian Flynn et ça va être bien. Et on en parlera. Et si jamais vous voulez, il y a aussi une très bonne mini-série que vous pouvez regarder pour être prêt et prête avant le live. Voilà.
Ouais, c'est, je crois, dans mes souvenirs, que c'est une mini-série de Jean-Marc Vallée.
Oui.
Dont je déteste systématiquement le travail. Bon, le
ah, ben, bah, donc c'est, le, c'est lui vraiment... qui avait fait Big Little Lies.
Oui.
T'avais pas aimé Big Little Lies? Ah ouais?
Ah, j'ai détesté.
Ah, bah oui, ça explique.
De A à Z.
Il a un style assez unique, enfin, assez reconnaissable comme réalisateur. Donc je comprends que pour le coup, ça passe ou ça casse. Si t'aimes pas. Si t'aimes pas l'un, t'aimeras pas l'autre. C'est un peu comme Tim Burton, tu vois. C'est le genre de réal. Tu vois son univers, si ça marche pas. Je vais pas t'obliger à regarder la série, y a pas de problème.
Moi, c'était un no-go. Mais c'est très intéressant parce que déjà, je vois que tu es en permanence dans me faire souffrir systématiquement à chaque fois que tu choisis un roman. Mais ce qui est aussi intéressant, ça va être de voir. Parce que tu sais, très souvent, on lit un livre, ensuite, enfin, alors moi, c'est comme ça souvent, je lis un livre et ensuite, je vois l'adaptation. là, ça va être intéressant pour moi d'avoir déjà vu cette série, de l'avoir haï profondément, d'en avoir parlé, d'avoir dit « qu'est-ce que c'est nul !»
On a débattu avec Kalindi, il y a 2-3 podcasts dans les tréfonds des archives de Laisse-moi kiffer, où je pense se prend le chou sur Sharp Objects, parce que moi, j'ai... En fait, on n'a pas tout le temps les mêmes goûts, mais c'est rare qu'on soit aussi peu d'accord sur une série. Ouais. C'est rare qu'il y ait ce truc de « moi, j'ai adoré et toi t'as détesté ». En plus c'est un thriller, donc il y a un côté un peu voilà, enquête, mystère et tout. C'est des univers que t'aimes bien aussi, quoi, donc enfin des styles que t'aimes bien, et ça va être rigolo d'en débattre. Mais comme dit Ginny le mouton,
de lire après.
Si c'est Jean-Marc Vallée qui bloque, bah peut-être que le livre te plaira plus. Exactement. Parce que du coup tu pourras te faire ta propre image. Alors Terreur Nocturne demande, est-ce qu'il y a des trigger warning? Honnêtement, oui, plein.
Oui.
je suis un peu dans la team les trigger warning, c'est un peu des spoilers, mais en vrai, trigger warning relation mère-fille, mère-enfant fucked up, trigger warning automutilation beaucoup, trigger warning suicide, trigger warning clinique psy, trigger warning du coup meurtre, puisque enfin meurtre ça commence avec une jeune femme qui retourne dans sa... Enfin, une femme qui retourne dans la ville où elle a grandi pour enquêter parce qu'il y a il y a peut-être un serial killer. Enfin, en tout cas, il y a des meurtres mystérieux de jeunes femmes. Donc, oui, c'est... Pour le coup, c'est très noir, très assumé. C'est des thématiques très dures. Donc, aucun problème si vous n'êtes pas dans le mood, je comprends. Mais c'est un peu... C'est plus un thriller qu'un drame tranche de vie, puisqu'il y a quand même un... Voilà, ça commence avec une enquête journalistique, pour le coup. L'héroïne, elle est pas flic, mais elle est journaliste. Et c'est juste, comme elle revient dans sa ville natale, l'occasion de se reconnecter avec tous les démons de son passé. Voilà, ça va être bien. Un peu vibe True Detective, saison 1, mais avec des meufs, ce qui n'était pas le cas dans True Detective saison 1, parce qu'il y avait juste des personnages avec des seins qui étaient filmés de près. C'était super.
Ok. Si tu refais la saison, vraiment, on en reparlera bientôt.
Non, mais écoutez, que des tchouches. C'est la fin, on a bien causé.
Et puis, en fait, une résolution assez merdique, finalement.
Aussi. Ouais,
donc,
on est d'accord.
Vraiment, tout détective, je suis là tellement bien, à tellement d'égards, mais déjà tellement bavard, tellement prétentieux.
Ça cause.
Et nul à chier. Voilà, c'est une résolution pour détective saison. N'hésitez pas à regarder la saison 4.
On n'a pas encore la date exacte, mais ce sera du coup la dernière semaine d'avril, a priori. Cal, on verra selon... on va pas le faire la veille de ton lancement de livre, par exemple, rappelons-le, le 2 mai, les journaux, vos éditions Lattès. Mais ça sera peut-être mardi 30, voilà, par là, quoi. Ça va être super. On va donc lire Sur ma peau de Gillian Flynn, Sharp Objects, de son titre original. Et en attendant, Cal, est-ce que tu... Ah, des trucs à annoncer, des endroits où tu voudrais que les gens te suivent, etc.
N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @calrampfel. N'hésitez pas à acheter mon livre normalement bientôt, demain, je pense, disponible en précommande.
Il est déjà dispo en précommande, t'inquiète. Il y a Terreur Nocturne qui l'a précommandé.
Ah, ça me touche énormément. N'hésitez pas à écouter 4 quarts d'heure, c'est tous les mardis matin, le podcast que je co-anime avec Alix Martineau, Camille Laurent et Louise Petrouchka. Mon podcast, c'est la vie qui compte aussi, qui sort tous les jeudis ou vendredis, ça dépend vraiment de mon état de gueule de bois. C'est à peu près tout. N'hésitez pas à vous inscrire aux ateliers Le Cas pour venir apprendre à écrire une histoire. N'hésitez pas à vous inscrire aux masterclass également.
La première masterclass Le Cas.
Des professionnels.
Dispo. Et ce sera le 18 avril, ce sera avec Quentin Zuchon, auteur et dessinateur de BD, qui va vous parler d'autofiction et de comment s'inspirer de sa propre vie pour écrire de la fiction, ce qui est, du coup, ça tombe vraiment très très bien pour le livre dont on vient de parler, puisqu'apparemment c'est assez raccord avec la vie de Joyce Maynard. Et moi, de mon côté, du coup, en plus du book club avec Kalindi, je vous donne rendez-vous tous les lundis dans le Fab et Mimi Show, en podcast et sur YouTube, un talk show avec Fabrice Florent où on parle de plein de choses, environ. Tous les mardis en podcast dans BFF, le replay de mon émission Twitch avec Marie Kigaï, dans lequel on parle santé mentale ce mois-ci. Le nouvel épisode qui est sorti aujourd'hui, c'est sur santé mentale et libido, parce qu'à chaque fois on a une question sexo, et du coup, comment nos bails de santé mentale, dépression, anxiété, etc. influent sur notre libido, c'était cool d'en parler. Du coup, en avril, on lit Sur ma peau de Gillian Flynn. Ouais. Merci Kalindi, merci tout
merci
le monde.
Merci à toi Mimi, c'était super
contente.
Comme d'habitude, ouais. Ça fait vraiment deux fois.
Trop contente de ce format.
Ouais, c'est super chouette. Et merci à vous de lire les livres qu'on vous recommande.
Mais oui, trop bien.
Ça prend du temps la lecture, mais c'est toujours un plaisir. Donc merci beaucoup.
Et aucun
trop
regret.
Hâte, trop hâte d'apprendre à aimer Sharp Objects, avec un peu de chance.
J'espère que tu vas aimer. Allez, on fait des bisous. On se voit le mois prochain. Et vous et moi, vendredi soir. Bisous.
Salut à tous. Tchuss.